Vous écoutez
RMC.
Il est 7h. Très bon réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le 1er mai 2026 restera férié chômé face à la menace des syndicats. Le gouvernement repousse le débat sur l'ouverture de certains commerces à 2027. La condamnation du cimentier Lafarge et 8 de ses anciens responsables, certains de la prison ferme reconnus coupables de financement de terrorisme en Syrie. Et Liverpool déterminé à renverser le PSG et ses 2 buts d'avance avant le match retour de ses quarts de finale de Ligue des Champions.
Première victoire pour les syndicats.
Le gouvernement recule et renonce donc à élargir l'ouverture des commerces le 1er mai. La fête du travail restera donc fériée et chômée cette année. En tout cas, pour autant, Sonia Gobry, le sujet est loin d'être enterré.
Le 1er mai 2026 sera un 1er mai comme les autres, affirment tout sourire les représentants syndicaux. Le droit du travail ne change pas sur le ministère, donc en théorie, les commerçants qui feront travailler leurs salariés ce jour-là s'exposeront toujours à des sanctions. Mais ça, c'est en théorie, parce que le Premier ministre dit aussi qu'il veut faire rapidement des propositions aux commerces indépendants de la boulangerie et des fleuristes, applicables dès ce 1er mai 2026, précise une source gouvernementale. Plusieurs options sont à l'étude, comme une tolérance pour ceux qui ouvrent malgré l'interdiction, en attendant qu'un accord soit gravé dans le marbre, parce que le gouvernement renvoie aux négociations secteur par secteur avec un objectif: aboutir à un texte effectif l'an prochain, le 1er mai 2027.
Il n'y aura donc pas de commission mixte paritaire sur le sujet. Sébastien Lecornu y renonce et la décision ne passe pas du tout auprès des professionnels concernés. C'est le cas des boulangers. Frédéric Roy, porte-parole du collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat.
Ça fait 40 ans que j'ouvre le 1er mai, je vois pas pourquoi cette année j'ouvrirais pas. On est à Nice, dans ma boulangerie, je livre des plats. Pourquoi ils mangeraient du pain rassis les touristes ce jour-là, ou les clients des restaurants? Les pizzerias ont le droit d'ouvrir, les restaurants ont le droit d'ouvrir, les kebabs ont le droit d'ouvrir, tout le monde a le droit d'ouvrir dans la restauration, mais pas les boulangers, c'est pas normal. On ne veut pas un nouveau jour travailler. On veut juste encadrer celui qu'on a toujours travaillé, parce que l'ensemble des boulangers ont toujours travaillé le 1er mai.
Il est 7h02 sur RMC, les prix du carburant en baisse. Un centime seulement en moyenne en France depuis l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. La semaine dernière, une trêve menacée par l'instauration d'un blocus américain en place depuis hier soir dans le détroit d'Ormuz après l'échec des négociations. Ce week-end, les échanges ne sont pourtant pas rompus. La balle est désormais dans le camp de l'Iran, disent les États-Unis. Infime espoir pour une baisse des prix durable et surtout visible, ce qui pour l'heure est loin d'être le cas. Reportage à Toulouse de notre correspondant dans le sud-ouest, Jean-Wilfried Forquès.
Dans cette station-service, depuis 3 jours, pas de changement pour le super sans-plomb.
On reste au-dessus des 2 euros, donc il n'y a pas d'évolution particulière qui sont constatées.
En revanche, le gazole a reculé de 9 centimes par litre, mais cela reste trop élevé pour beaucoup d'automobilistes.
Le prix est vraiment exaspérant. On est à 2,37.
À la pompe, beaucoup de clients attendent une réponse du gouvernement.
Je demande au gouvernement de trouver une solution très rapidement pour les prix d'essence.
Il faudrait que l'État baisse les taxes.
Il faut baisser la TVA, il faut baisser leurs marges.
En gros, déjà, c'est comme ça. Les actionnaires aussi, avec Total et les dividendes.
Certains rappellent qu'en Allemagne, par exemple, une des taxes sur les carburants a été réduite.
Si effectivement l'État peut avoir une implication sur ça, j'espère qu'effectivement ça sera écouté et mis en place.
Outre Rhin, la réduction de cette taxe durant 2 mois permettra une baisse de 17 centimes par litre.
Et dans le même temps, c'est aujourd'hui que s'ouvrent à Washington les premières discussions directes préliminaires à la paix entre Libanais et Israéliens, avec les chances très faibles d'aboutir à un accord. Ce matin, l'État hébreu annonce la mort de l'un de ses soldats dans le sud du Liban. De nouvelles suspensions dans le périscolaire parisien, éclaboussées par les affaires de scandales sexuels. 11 animateurs ont été écartés ces 10 derniers jours, selon la CFDT. C'est une information que vous révèle RMC. Ce matin, il s'ajoute aux 78 agents déjà suspendus depuis le début de l'année. Le sujet sera sur la table d'un conseil municipal extraordinaire ce mardi à Paris, convoqué à la demande du nouveau maire Emmanuel Grégoire.
Et on en reparle à la fin de ce journal avec Bérangère Bocquillon, chef du service société RMC, et le témoignage de l'une des mamans de ces enfants victimes dans le périscolaire.
Le verdict espéré aujourd'hui à Aix-en-Provence, avec 4 jours de retard au procès sous tension d'un double homicide dans lequel comparaissent 2 chefs présumés de la DZ Mafia. Plus d'1 million d'euros d'amende, condamnation du cimentier Lafarge pour financement de terrorisme entre 2013 et 2014. La justice lui reproche d'avoir payé des djihadistes afin de permettre la continuité de ses activités en Syrie. 8 anciens responsables du groupe ont été reconnus coupables. 2 d'entre eux condamnés à de la prison ferme. Le tribunal correctionnel de Paris est même allé, Constance Bostoen, au-delà des réquisitions du parquet national antiterroriste.
Oui, le tribunal correctionnel estime que les versements du cimentier français à trois groupes djihadistes entre 2013 et 2014 sont, je cite, d'une exceptionnelle gravité et surtout qu'ils ont bel et bien permis de financer et de préparer des actes terroristes, notamment ceux de janvier 2015 en France. Le tribunal fustige notamment la mauvaise foi et la lâcheté de l'ancien PDG du groupe Lafarge, Bruno Lafont, qui a assuré lors des débats n'avoir jamais été informé de ces versements. Même chose pour son ancien bras droit, Christian Hérault. Les juges assurent qu'il présidait bien les négociations avec le groupe État islamique. Les deux anciens dirigeants ont donc été condamnés à 6 et 5 ans de prison avec incarcération immédiate. Leurs avocates ont dénoncé une décision spectacle. Elles ont annoncé faire appel. Elles ont aussi demandé la remise en liberté de leurs clients.
Le mal-être des soignants stressés ou anxieux pour plus de la moitié d'entre eux, ils sont même 35% à se déclarer en mauvaise santé. Résultat d'une enquête CSA pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers que vous révèle RMC ce matin. On en reparle dans le journal de 7h30. Objectif demi pour le PSG en déplacement sur la pelouse de Liverpool ce soir. Quart de finale de Ligue des Champions, vainqueur 2-0 la semaine dernière au Parc des Princes. Les Parisiens veulent terminer le travail, Arthur Perrault, et éviter le piège ce soir à Anfield.
Oui, malgré les deux buts d'avance de la semaine dernière, l'entraîneur parisien Luis Enrique refuse de s'emballer.
Pour moi, c'est un match piège. Tu as gagné les premiers matchs, tout le monde parle qu'on a été très supérieur. Et peut-être c'est vrai, mais le football et les matchs changent très vite.
Surtout que le PSG va devoir affronter les 57 000 supporters anglais du mythique stade d'Anfield, l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot. Yeah.
Paris sait à quoi s'attendre, du moins ils pensent. J'espère que nos supporters porteront l'ambiance à un autre niveau. Je pense qu'ils vont les surprendre.
Une ambiance de feu en tribune pour porter un club déjà 6 fois vainqueur de la Coupe d'Europe. Le milieu de terrain Dominique Szoboszlai est déterminé.
On va tout donner entre la première minute et espérons la 90e minute, même si ça va plus loin, jusqu'à la 125e minute si nécessaire. Je suis prêt à mourir sur le terrain et je parle au nom de mes coéquipiers aussi. Tout peut se passer dans un match à Anfield.
Mais Paris peut y croire. 87% des équipes ayant gagné 2-0 à domicile à l'aller en match à élimination directe de Champions League se sont qualifiées au tour suivant.
Et rendez-vous donc ce soir, 21h sur RMC pour vivre cette rencontre entre Liverpool et le PSG. Match suivi de l'after foot et de la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h07 sur RMC. Premier conseil de Paris ce matin. Et le nouveau maire Emmanuel Grégoire promet de mettre fin aux violences sexuelles dans le périscolaire. RMC vous le révèle ce matin. Les soupçons et les suspensions s'accélèrent. Témoignage à suivre d'une maman dont la petite fille raconte avoir été victime d'un animateur. On se retrouve dans un instant. Il est 7h08.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Premier conseil de Paris ce matin. Un conseil de Paris sous pression pour le nouveau maire après les scandales qui se multiplient de violences dans le périscolaire parisien. Emmanuel Grégoire a annoncé que 78 agents du périscolaire avaient été suspendus depuis janvier. 78, dont 31 pour suspicion de violences sexuelles. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Sarah, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes la maman d'une petite fille de 4 ans scolarisée à Paris. Et votre petite fille vous a raconté avoir été victime d'attouchement par un animateur. Vous avez porté plainte et vous allez nous le raconter dans un instant. Avant de vous donner la parole, Sarah, je me tourne vers Bérangère Bouquillon. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Vous êtes la chef du service société d'RMC. Vous nous révélez que le rythme des suspensions dans le périscolaire parisien s'accélère.
Oui, parce qu'au moins 11 animateurs ont été suspendus ces 10 derniers jours, selon la CFDT. C'est simple, à la moindre alerte, l'agent est suspendu, nous dit le nouveau maire de Paris, et les signalements se multiplient pour des faits de violence des animateurs. Des cris, des gestes déplacés, des coups, et pour des violences sexuelles qui viennent d'arriver ou qui datent de plusieurs années parce que la parole se libère. Et puis, plus les parents sont alertés, plus ils interrogent et écoutent leurs enfants.
Est-ce qu'on sait qui sont ces animateurs suspendus ?
Non, on ne sait pas grand-chose. Emmanuel Grégoire a parlé de 31 animateurs suspendus pour des suspicions de violences sexuelles. Beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais on ne sait pas combien d'enfants se disent victimes, on ne sait pas non plus combien d'écoles sont touchées. Ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière encore, un responsable du périscolaire d'une école maternelle du 11e arrondissement a été accusé d'agression sexuelle et les parents ont ensuite appris que ce responsable avait déjà fait l'objet d'un signalement en 2019. Pour les mêmes faits, l'affaire avait été classée sans suite.
Pourquoi autant de cas dans le périscolaire parisien ?
Parce qu'il y a 15 000 animateurs dans le périscolaire parisien. Pour comparaison, il y en a autour de 600 dans une ville comme Bordeaux. Et parmi les Parisiens, il y a beaucoup de vacataires, très peu de titulaires, avec un gros turnover. Mais Paris n'est pas la seule ville touchée. Hein. Le préfet des Hauts-de-Seine a annoncé la semaine dernière 45 signalements depuis la rentrée de septembre dans son département. Il y a aussi des cas sordides à Nantes, à Montpellier. Mais à Paris, Emmanuel Grégoire parle d'une omerta systémique. Un responsable CFDT de périscolaire me racontait que l'obsession de la mairie jusqu'à l'an dernier, ça n'était pas les violences faites aux enfants, c'était les postes vacants.
Et justement, cette question, effectivement, d'ailleurs, de l'organisation même des petits bouts de mi-temps, en quelque sorte, est aussi l'une des pistes pour essayer de comprendre ce qui s'est joué. Sarah, je reviens vers vous. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez donc porté plainte contre un animateur du périscolaire et contre l'école de votre fille. C'est le 9 janvier dernier, donc tout récemment, que votre fille est rentrée de l'école et s'est mise à vous parler. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Alors, ma fille rentre un soir de l'école. Sur le trajet, elle s'arrête, son visage se ferme et elle me parle d'un animateur qui n'arrête pas de lui dire qu'il l'aime bien, que ça la rend triste et qu'elle ne veut plus qu'il vienne me parler. Elle me dit aussi à ce moment-là qu'il lui a pris quelque chose, que ça l'a rendu triste.
Et vous dites quoi ? Vous réagissez comment ? Vous lui posez quoi comme question ?
Eh ben, je suis très surprise et je sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas puisque ma fille n'a jamais parlé comme ça d'un adulte. Donc ma première réaction est de la croire, évidemment, de l'écouter et d'envoyer tout de suite un mail à la direction de l'école et du périscolaire pour prendre rendez-vous en disant que ma fille m'a remonté quelque chose qui n'allait pas.
Et comment réagit l'école ? Ouais.
Alors la semaine suivante, j'ai trois rendez-vous avec la direction de l'école et la direction du périscolaire. Et les réactions sont les suivantes. On me dit que c'est impossible que l'animateur soit en relation avec ma fille, qu'il s'occupe des grandes sections, que les animateurs sont en binôme.
Votre fille a 4 ans, donc elle est en moyenne section ou en petite section ?
Elle est en moyenne section.
D'accord.
Donc c'est impossible que l'animateur soit en contact avec elle. Ensuite, au deuxième rendez-vous, on me dit qu'effectivement l'animateur s'occupe des temps du périscolaire, c'est-à-dire de la cantine, des goûters et du mercredi après-midi.
Ah oui, d'accord. Donc après vous avoir dit qu'il n'y avait aucun rapport déjà
Voilà, c'est ça, le discours évolue. Mais on me dit que tout est sécurisé, que les animateurs sont en binôme, que ma fille n'a pas pu être en contact avec cet animateur. Donc une instruction préoccupante est bien faite par l'école, mais le discours de ma fille est minimisé. Et du coup, je ressors de ces entretiens rassurés, puisque j'ai quand même en face de moi trois personnes de l'école, de la direction, qui me disent droit dans les yeux que c'est impossible en fait qu'elle ait pu être en contact prolongé avec cet animateur.
Et c'est là que vous découvrez qu'une autre famille en réalité avait déjà signalé des faits.
Alors je le découvre trois semaines plus tard quand on reçoit un mail de la CASP qui indique.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la CASP ?
Alors la CASP, ce sont les responsables des animateurs du périscolaire.
D'accord.
Et au-dessus, je crois que c'est la DASCO.
Okay.
Donc on reçoit un mail qui nous dit que une famille a porté plainte contre un animateur et l'animateur a été suspendu et qu'ils vont organiser une réunion avec tous les parents de l'école pour en discuter. Et à ce moment-là, je ne comprends pas ce mail puisque ce n'est pas du tout le signalement que j'ai fait. Donc j'appelle la CASP que j'avais eu trois semaines avant au téléphone et je leur dis je ne comprends pas, ce n'est pas le signalement que je vous ai fait, je n'ai pas porté plainte, ma fille ne s'est pas fait agresser sexuellement. Et c'est là qu'au bout de 5-10 minutes de discussion et de questions, je comprends qu'il y a un autre signalement d'une autre famille qui date de mi-décembre, soit un mois avant, sur le même animateur et pour des faits beaucoup plus graves.
Des faits beaucoup plus graves, dites-vous. Vous avez mieux compris ce qui était arrivé entre-temps ? Vous avez mieux compris ce qui était arrivé à votre propre fille ?
Alors, non, j'ai compris
comment
ce qui est arrivé
au... Comment vous les qualifieriez ?
Alors, en fait, il s'agit d'un... La première famille, c'est un petit garçon aussi qui est dans une classe de moyenne section, pas dans la même classe de ma fille.
D'accord.
Que j'ai eu, du coup, ce jour même du mail de la DASCO au téléphone pour comprendre ce qui s'était passé avec leur enfant. Et j'ai compris que l'enfant avait été touché sur les parties intimes.
D'accord.
Donc, quand j'apprends ça, j'ai une discussion avec ma fille le soir.
Oui.
J'ai des craintes qui commencent à naître. Et c'est là que ma fille me dit que l'animateur s'est assis à côté d'elle dans le préau, qui lui a demandé s'il pouvait lui toucher le genou, qu'elle a dit non, qu'il l'a quand même fait, et elle m'a montré le geste. Il est remonté sur la cuisse, il est passé au-dessus de son sexe, il est redescendu, et elle lui a demandé d'arrêter, il n'a pas arrêté, et elle m'a dit aussi, quelques jours plus tard, qu'il lui avait soulevé le t-shirt pour lui toucher le nombril, et qu'il lui avait demandé s'il pouvait lui montrer son sexe, et qu'elle avait dit non. Et c'est là, du coup, que j'ai porté plainte.
Vous avez porté plainte. Quelle est la suite? Comment est-ce que vous estimez que les réponses qui vous sont apportées aujourd'hui sont suffisantes? Et qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Qu'est-ce que vous demandez pour la suite?
Alors, je n'ai aucune nouvelle de ma plainte. Je sais que le dossier est bien ouvert côté Brigade des mineurs et qu'avec nos relances, on a compris qu'aucun enquêteur n'avait pour le moment été affecté parce qu'ils sont débordés. Donc en fait, on n'a aucune nouvelle de personne. On est heureusement appuyé par des associations comme l'association Osez, MeToo et SOS Périscolaire qui nous accompagnent, qui nous conseillent. Moi, j'ai pris un avocat aussi pour suivre le dossier. Mais globalement, on se sent complètement lâché dans la nature. On n'a aucune nouvelle de notre dossier. J'ai aussi porté plainte effectivement contre les institutions, puisque quand moi j'ai fait le signalement, on a endormi la parole de ma fille. On m'a pas dit qu'il y avait un premier signalement. Et globalement, ils n'ont pas appliqué le plan de Paris, que du coup je maîtrisais un peu plus tard, qui est qu'au moindre signalement, l'animateur doit être suspendu. Donc quand ils ont eu le premier signalement mi-décembre, ils auraient dû le suspendre, et ils l'ont pas fait. Et quand ils ont eu mon signalement, ils auraient dû aussi le suspendre, ils l'ont pas
fait. Et surtout faire le rapprochement entre les deux, ce qui visiblement n'avait pas été fait. Comment va votre fille, Sarah ?
Ma fille va bien, elle a été évaluée dans le cadre de l'UAPED de Robert Debré. Apparemment, il n'y a pas de traumatisme.
De l'hôpital Robert Debré, je le dis pour ceux qui ne seraient pas parisiens.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de traumatisme parce qu'on m'a dit que j'avais accueilli sa parole, que j'avais tout fait bien, que j'avais porté plainte et que du coup, elle me faisait entièrement confiance. Donc, ça avait réduit le traumatisme. Mais par contre, elle a quand même des régressions puisqu'elle n'arrête pas de parler du loup. Elle a peur du loup. Elle dort dans ma chambre. Elle ne veut plus être seule dans une pièce.
Merci beaucoup Sarah pour votre témoignage. Courage à vous, à votre fille, aux autres parents évidemment. Et merci à vous. Il y a un rassemblement des familles cet après-midi devant l'hôtel de ville de Paris à l'occasion donc de ce premier conseil de Paris. Merci aussi à Bérangère Bouquillon, chef du service société d'RMC. Je vous rappelle cette information que vous nous révéliez à l'instant, Bérangère. Au moins 11 animateurs suspendus ces 10 derniers jours pour des suspicions de violence. Il est 7h20 sur RMC. Arthur Chevalier vient de rentrer dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, l'historien d'Apolline Matin, le gouvernement a finalement reculé. Le 1er mai reste un jour férié. Mais enfin Arthur, on aimerait bien savoir finalement il vient d'où ce jour chômé?
Eh bien le 1er mai c'est un hommage aux travailleurs dans le monde entier hein, et à l'origine il a été instauré après une grève particulièrement meurtrière.
Vous nous le racontez dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, il est 7h21 et on se retrouve dans 30 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On remonte le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, après plusieurs jours d'hésitation, le gouvernement arrête tout et a finalement cédé hier soir face à la pression des syndicats et de la gauche sur le 1er mai. Il n'y aura donc pas de changement cette année pour cette journée symbolique.
Et oui, le 1er mai était au cœur des débats depuis plusieurs jours. Une proposition de loi voulait permettre à certains salariés de travailler ce jour-là. Alors c'était évidemment sur la base du volontariat avec une majoration de salaire. Et finalement, le gouvernement préfère laisser la main aux partenaires sociaux pour qu'ils négocient en vue du 1er mai 2027, donc dans un an, on ne touche pas à ce jour chômé.
Depuis quand est-ce que c'est une date importante, le 1er mai?
Alors déjà, contre toute attente, le 1er mai, ça vient des États-Unis, Apolline. C'est assez rare pour le signaler, voilà. Et alors voilà l'histoire, nous sommes le 1er mai 1886 dans la ville de Chicago, et ce jour-là, 80 000 ouvriers sont réunis pour manifester leur revendication, c'est de passer à la journée de travail de 8 heures au lieu de 10 ou de 12. Alors, et pourquoi ça se passait le 1er mai? Eh bien parce que c'était le début de l'année comptable pour la plupart des entreprises, tout simplement.
Cette manifestation, elle va très mal tourner.
Et oui, puisque la police tue 3 manifestants, les jours suivants ça continue. 15 policiers trouveront aussi la mort, résultat des ouvriers passant jugement. Certains seront même condamnés à mort et pendus. À partir de là, les victimes de ce jour seront considérées comme des martyrs de la cause ouvrière.
Pourquoi cette journée, c'est cette journée-là qui donne lieu ensuite au fameux 1er mai?
C'est exactement ça. Et en France, ça arrive justement 3 ans plus tard. Et c'est l'initiative d'un homme qui s'appelait Jules Guesde, qui est le fondateur du premier parti ouvrier dans notre pays. Et en 1890, il organise une grande manifestation ouvrière pour réclamer exactement la même chose que ce que réclamaient les ouvriers américains, c'est-à-dire la journée de 8 heures. Et il choisit donc le 1er mai en hommage direct aux ouvriers de Chicago exécutés 3 ans plus tôt. Donc oui, c'est une référence directe aux États-Unis.
Depuis quand c'est un jour férié officiellement le 1er mai?
Eh bien depuis que le Parlement a voté justement pour la journée de 8 heures. Et alors ça a pris un peu de temps puisque ça sera voté en avril 1919. Et dans un premier temps, le 1er mai c'est un jour chômé. La différence entre un jour férié et un jour chômé, c'est que les jours fériés, c'est possible de travailler, alors que les jours chômés, c'est totalement interdit, sauf à de très très rares exceptions. Et le 1er mai va devenir officiellement férié et chômé en 1946.
Qui dit 1er mai dit aussi muguet. Depuis quand cette tradition du muguet du 1er mai?
Alors, pendant longtemps, le symbole du 1er mai, c'était pas le mulet, c'était l'églantine, Apolline.
Ah.
Absolument, on portait une églantine à la boutonnière. Mais quand le maréchal Pétain prend le pouvoir en 1940, tout change. Il garde le 1er mai, mais c'est plus la fête des travailleurs, c'est la fête du travail et de la concorde sociale, pour que ça soit plus conforme à ses valeurs ultra-réactionnaires. Et il impose le muguet comme symbole. Alors depuis, la fête du travail est redevenue la fête des travailleurs, mais on a gardé le muguet, qui est aussi un symbole du printemps.
C'est inouï, alors que le muguet est aujourd'hui vendu plutôt justement par la
Exactement.
Gauche. Et c'est en réalité Pétain qui l'a remis.
Absolument.
Bon, il est 7h24, ne manquez pas aussi à 7h40 le patron des boulangers qui réagira donc à cette... reculade, on peut dire, du Exactement. Gouvernement,
Totalement.
Honnêtement, qui finit par faire pause, alors que la loi devait être votée, la loi pour permettre de travailler le 1er mai, ne manquez pas. Donc, le patron des boulangers, c'est à 7h40. Pour l'heure, il est 7h25. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Bonjour. À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV. Mon invité, ce sera le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy.
Oui. Bah franchement, respect. Je vois qu'on s'étouffe déjà en face. Parce que, non mais c'est courageux de sa part de venir. Vraiment, Tanguy qui accepte de répondre vos questions, compte tenu de l'actu du moment, c'est couillu. Vous voyez, c'est Laurent Deutsch qui vient se battre contre Mike Tyson qui est là. C'est Sébastien Delogu qui vient faire spontanément la dictée de pivot. Oh, dictée, D-I-K-T. Donc vraiment, prévoyez les pop-corns à 8h30. Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Votre allié Viktor Orban s'est fait lourder en Hongrie après avoir appliqué votre programme. Donald Trump, qui vous soutient, plonge le monde dans le chaos, fait monter le prix de l'essence pour les Français et veut défoncer le pape, l'idole des catholiques qui votent pour vous, pendant que votre autre allié, Vladimir Poutine, massacre des Ukrainiens innocents. Alors,
comment ça va?
T'es fier de toi? Au bout d'une demi-heure, il va être en larmes. Non mais moi, en vrai, moi je suis plutôt un LR à la base, mais... comme il n'y a que des nuls au RN, je m'étais dit que ce serait plus facile pour faire carrière. Et puis maintenant, voilà quoi. Mais tu le vois bien que maintenant, c'est le camp des tyrans et des losers. Mais oui, mais je voulais pas, moi, à la base. Mais c'est pas grave. Allez, viens. Pleure sur mon épaule.
Non.
Ça va te faire du bien, mon grand Pétain. Allez, mouche-toi. Fais-nous une grosse moumouche. Oh, pas dans ma veste blanche. Non, il y a une grosse trace jaune et verte. Ah. Et bon petit-déj. En plus, Apolline, vous êtes sadique, vous allez même pas lui demander des nouvelles de la princesse du bourdon des deux sardaines là. Je suis nul en mode, tu pas Stéphane Bern hein. À un an de la présidentielle, Bardella a lancé l'artillerie lourde, la couve de Paris Match avec une princesse, chapeau l'artiste. Ken et Barbie 2, regardez ça, une mise en scène magnifique, avec dans ce couple, je trouve, toute la chaleur d'un séminaire d'entreprise de photocopieurs. Ils ne se touchent pas sur aucune photo, ils marchent côte à côte, il y a plus de complicité entre moi et mon poissonnier, on dirait Trump et Mélania. C'est sordide, je trouve. Non, mais pour une relation qui démarre, vous savez, on met la tête sur l'épaule, on miaule un peu, quoi, y compris dans Paris Match.
Non, non, on miaule.
Eux, faut les prévenir, faut leur dire qu'il n'y a plus le Covid. Et c'est là, ils se sont dit, si on se touche, on va prendre 135 euros d'amende. Non, non, c'est fini, ça. Bon, c'est quand même une princesse, hein. Allez, dans les dents, Sarkozy, avec ton mannequin des années 80, on n'avait pas vu ça depuis Giscard. Giscard, il serait allé voir Bardella, c'est pas le premier. Je me suis tapé Lady Di. La femme de Bocassa, je l'ai baisé. Simone Veil, je l'ai baisé. Le prince Patrice de Moldavie, il était bourré. N'empêche, je l'ai quand même baisé. Dans le... Non, là, et. Vous allez un peu loin? Non, peut-être
non,
un peu.
Non, c'est bien.
Il y a encore du progrès à faire pour rattraper François Hollande, quand même, qui nous a offert deux premières dames en un seul mandat.
C'est vrai, c'était
pas mal, non? C'est français.
Ah, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on est beau gosse, on est beau gosse. Allez. Jean-Philippe Tanguy, 8h30, à tout à l'heure.
Allez, à tout à l'heure, on vous retrouve aussi à 8h20 évidemment, Arnaud. Il est 7h28, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Restez bien avec nous. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. La thèse de l'accident privilégié. RMC vous dévoile ce matin les dernières avancées de l'enquête sur la mort par balle d'un adolescent dans le Rhône. Coup de massue pour le camp macroniste, mais victoire pour les syndicats. Le gouvernement recule et repousse l'élargissement du travail le 1er mai. Blessures, surmenage et conditions de travail. Les soignants à l'hôpital sont plus malades que les autres fonctionnaires. On vous détaille en exclusivité cette étude publiée ce matin.
C'est une information à RMC. Les enquêteurs privilégient la piste accidentelle à Villefranche-sur-Saône.
Près de Lyon, là où un collégien est mort d'une balle dans la tête hier. Enquête ouverte pour assassinat. D'ailleurs, deux adolescents ont été interpellés dans la foulée. Mais Maxime Clieruza, vous nous le dites ce matin, c'est un autre déroulé des faits que dessinent les premiers éléments.
Oui, les trois garçons se trouvaient dans un commerce du quartier Belleroche à Villefranche-sur-Saône quand l'un d'entre eux a attrapé une arme et c'est en voulant jouer avec celle-ci que l'un des trois mineurs aurait malencontreusement appuyé sur la détente. Le tir est alors parti directement dans la tête du jeune de 13 ans qui a succombé à ses blessures malgré les tentatives de réanimation. Toujours selon nos informations, ni la victime ni les deux jeunes âgés de 12 et 15 ans qui ont été interpellés ne sont connus de la justice. Et si la piste accidentelle est confirmée, les enquêteurs devront alors répondre à une question: comment cette arme qui se trouvait dans le commerce au moment des faits a-t-elle fini entre les mains de ces adolescents ?
Maxime Clieruza du service police-justice de RMC. Capitulation, compromission avec la gauche, ce sont les mots de la droite et du camp macroniste ce matin. C'est au moins un recul qu'a opéré le gouvernement sur la réforme du 1er mai hier. La loi pour permettre à certains patrons, les boulangers par exemple, pour leur permettre de faire travailler leurs salariés ce jour férié, était dans sa dernière ligne droite, mais elle a été mise en pause, renvoyée à l'année prochaine, c'est-à-dire en pleine campagne présidentielle. Le coup de pression des syndicats, notamment de la CGT, a fonctionné. Sa patronne Sophie Binet n'a pas manqué de s'en féliciter.
Non, cette loi n'était pas faite pour les artisans, mais pour les grands groupes. Non, cette loi ne se limitait pas aux fleuristes et aux boulangers, mais aurait permis d'ouvrir tous azimuts, y compris dans des endroits qui n'ont même pas le droit de travailler le dimanche. Non, cette loi ne garantissait ni le volontariat, ni le doublement de la rémunération. Le 1er mai n'est pas et ne sera jamais une journée à fort potentiel commercial, comme le disent les macronistes. Tout n'est pas à vendre, et certainement pas le 1er mai. Le bilan de cette séquence est clair. Les passages en force, c'est terminé.
Et Sébastien Lecornu, de son côté, plaide pour des accords branche par branche. Il a promis de recevoir cette semaine les professionnels qui voulaient cette réforme, parmi lesquels les boulangers. On en parlera juste après ce journal à 7h40 avec notre invité Dominique Enracte, le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Cela ressemble à un défi. Un pétrolier chinois visé par des sanctions américaines traverse en ce moment même le détroit d'Hormuz, zone, vous le savez, dans laquelle les États-Unis imposent depuis hier un blocus des ports iraniens. Situation de blocus qui fait dire à l'Agence internationale de l'énergie que le mois d'avril sera pire que le précédent pour les marchés. On fera le point dans le journal de 8h sur ce que cela signifie chez nous pour les prix à la pompe. L'une des rares bonnes nouvelles venues d'Iran ces derniers temps, c'est la libération il y a tout juste une semaine de Jacques Paris et de Cécile Kohler. Les deux ex-otages français ont donné leur première interview hier aux 20h de France 2 après 3 ans et demi passés dans les geôles de Téhéran.
Nous avons enfin pu serrer nos proches dans nos bras. C'est ça les sentiments qui me viennent en tête là comme ça.
Le bonheur.
Immédiatement, le bonheur, oui, et le soulagement.
C'est le bonheur, la joie et l'odeur de la liberté. Nous étions enfermés dans quelques mètres carrés pendant 3 ans et demi. Et maintenant, nous pouvons aller et venir et voir le ciel, voir la nature. Vous savez, lorsqu'on a été privé de tout, on s'émerveille de chaque chose.
Et notez que des négociations de paix vont avoir lieu aujourd'hui à Washington entre le Liban et Israël. Négociations qualifiées de capitulation par le Hezbollah qui a demandé leur annulation hier. Il est 7h35 sur RMC. On en vient à la souffrance de nos soignants. Confirmé par les chiffres que l'on vous le dévoile ce matin, le personnel hospitalier est plus malade que les autres fonctionnaires. 13 jours d'absence en moyenne par an, 4 de plus que les autres agents de la fonction publique. Derrière cette enquête CSA pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, il y a ces témoignages que vous avez recueillis pour RMC, Cassandre Brault, et qui mettent en cause les conditions de travail.
Après plusieurs années en tant qu'aide-soignante à l'hôpital, Alexandra se blesse gravement en manipulant un patient.
J'avais un bras en compote, et on court partout et on se blesse beaucoup plus facilement quand c'est comme ça.
Si les soignants sont plus souvent malades que les autres professions, c'est selon elle en raison de leurs conditions de travail difficiles.
Il n'y a pas de personnel, donc ça devient de plus en plus compliqué. C'est parce qu'on vous en demande de plus en plus et à un moment donné, votre corps il dit stop quoi.
Un corps mis à rude épreuve, comme en témoigne Victorienne, 60 ans, et sa maigre silhouette.
Des fois, il faut manipuler des patients qui sont un peu lourds. 95-100 kilos, c'est pas rien quoi. Et on en sort parfois avec des douleurs à l'épaule. Il y a mes collègues qui ont subi des accidents, qui sont en arrêt.
C'est le cas de Lise, aide-soignante depuis 3 ans.
Moi-même, au bout d'un an et demi, je me suis fait une méga tendinite sous l'omoplate en fait. Donc je pouvais plus rien porter pendant un mois.
L'amélioration des conditions de travail doit donc être une priorité selon elle.
On est quand même censé prendre soin des gens. Donc pour prendre soin des gens, il faut prendre soin de soi quoi.
L'aide-soignante souhaite prochainement se former pour devenir infirmière. Elle espère ainsi être un peu plus préservée physiquement.
L'événement foot de la soirée est à suivre évidemment sur RMC ce soir 21h. Coup d'envoi du quart de finale, retour de Ligue des Champions, Liverpool, Paris Saint-Germain. Les Parisiens l'avaient emporté 2-0 à l'aller, mais les Reds, eux, sont loin d'être abattus. Écoutez le milieu de terrain Dominique Szoboszlai.
On va tout donner entre la première minute et espérons la 90e minute, même si ça va plus loin, jusqu'à la 125e minute si nécessaire. Je suis prêt à mourir sur le terrain et je parle au nom de mes coéquipiers aussi. Tout peut se passer dans un match à Anfield.
La soirée Ligue des Champions à ne pas manquer donc sur RMC. Dans l'autre rencontre, le Barça doit renverser la situation face à l'Atlético Madrid à Madrid après le 2-0 du match aller.
Et puis le quintet, c'est à Chantilly aujourd'hui.
Départ 13h55, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 12, Grand Scoop. Son outsider, c'est le numéro 15, Simply Lovely, le 12 et le 15.
C'était le journal de Victor Pourchet. Vous êtes bien sur RMC, il est 7h37.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Laisser le temps au dialogue social, c'est accepter qu'il n'y ait donc pas de changement de la loi d'ici au 1er mai 2026. Ma responsabilité de ministre du Travail est d'apporter une réponse avant le 1er mai 2027 à l'insécurité juridique actuelle.
1er mai 2027, oui, vous avez bien entendu. Finalement, c'est non. C'était hier soir, le ministre du Travail qui annonçait donc le recul du gouvernement sur la question du travail du 1er mai. Et ça vous a immédiatement fait bondir, Dominique Enracte, bonjour. Pour présenter les boulangers et les pâtissiers de France, est-ce que vous allez quand même, d'ailleurs, faire travailler vos salariés ce 1er mai, prendre ce risque? Je vous pose la question dans un instant. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, venez témoigner au 32-16. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Alors pour le 1er mai, pour l'instant, en tout cas, rien ne bouge. Après des semaines d'agitation, de promesses, le gouvernement renonce finalement à étendre le travail le 1er mai. Alors soulagement des syndicats et d'une partie de la gauche qui défendait ce jour férié sacré et colère des fleuristes, des boulangers, dont vous êtes, bonjour Dominique Enracte.
Bonjour.
Vous présidez la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie. On se souvient de ce moment de grande confusion du 1er mai dernier où vous ne saviez plus finalement si vous aviez le droit de faire travailler des salariés ou pas, d'ouvrir ou pas. Ça va rester le grand flou. Finalement, les boulangers ne pourront pas faire travailler leurs salariés ce 1er mai. Vous êtes déçu?
Écoutez, je suis dépité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que tout était prêt. Le gouvernement, les députés, les sénateurs. Et aujourd'hui, avec un coup de pouce des syndicats, en fait, on peut plus. Donc là, évidemment, qu'on est vent debout, parce que là, c'est les salariés qui sont payés double. On a fait un sondage quand même, 80% veulent travailler. Les entreprises qui vont perdre du chiffre, et quand je vous parle de chiffres, c'est quand même certains endroits côtiers, c'est des journées de Noël à qui on va demander de fermer, alors que depuis 100 ans, ces entreprises ouvraient. Ensuite, imaginez toutes les boulangeries fermées ce jour-là, mais ils vont aller prendre où? Les sandwichs, le pain, les croissants. En fait, on va parler, c'est même pour des charlots vis-à-vis des touristes étrangers qui peuvent venir chez nous, quoi. Et sans compter que c'est quand même au niveau de l'État, c'est des taxes.
Comment vous expliquez alors qu'on a vu notamment l'engagement des plus macronistes, Gabriel Attal qui en avait fait un combat personnel, comment vous expliquez que tout ça fasse pchit?
Écoutez, j'ai l'impression que c'est la CGT qui pilote maintenant les entreprises, les syndicats. Donc ça, moi je trouve ça mais dramatique, parce que même en plus au niveau de leurs troupes, parce qu'aujourd'hui c'est comme les syndicats qui ont fait pression pour retirer ce projet. Donc là aujourd'hui, je me demande, c'est les syndicats qui pilotent les entreprises.
Alors il y a évidemment un certain nombre de salariés, et on en a eu notamment hier, on a eu plusieurs témoignages de salariés qui disaient qu'ils étaient très contents, eux, de bosser sur une base de volontariat. Il y avait des gens qui travaillaient notamment dans la sécurité, par exemple, donc même dans d'autres domaines, disant que le volontariat était respecté. Et puis, il y a ceux qui sont contre. Magali nous appelle de Colmar, dans le Haut-Rhin. Bonjour Magali.
Bonjour Apolline.
Je crois que vous êtes responsable comptable dans une entreprise. Comment vous réagissez? Oui. Vous trouvez ça bien que ça reste chômé?
Oui, moi je trouve qu'on est en train de supprimer au fur et à mesure tous les droits sociaux. Que le 1er mai, c'est un jour dans l'année où on arrête toute activité non essentielle. Ça ne me dérange pas que ça reste chômé. Quoi. Je ne suis pas de gauche, hein. Je ne suis pas une pro-gauche. Mais franchement, à un moment donné, il faut arrêter de nous supprimer tous les droits sociaux. Voilà. Et le 1er mai, ça en fait partie. Et je trouve
donc vous vous dites si les restaurants, les boulangeries, tout ça sont fermés le 1er mai, tant pis?
Tant pis. Mon fils, il va être boulanger. Hein. Il est en train de se... Il a 15 ans. Il a décidé de partir dans cette voie.
Ouais.
Et je suis... Enfin, voilà, je trouve... Il va travailler beaucoup. Les boulangers travaillent beaucoup. En Alsace, on a des spécificités sur la boulangerie. Hein. Mais... Et on est touristes. Enfin, il y a des touristes. Donc, voilà.
Vous estimez en tout cas qu'il y a des moments, effectivement, qu'il faut préserver. Magali, vous savez quoi? Vous allez pouvoir en parler avec Dominique Carac, mais aussi avec Patrick, qui, lui, est boulanger à Châtres-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher. Bonjour, bonjour, Patrick.
Oui, bonjour, Apolline.
Comment ça se passe pour vous, Patrick?
Alors, moi, c'est simple, c'est assez aberrant, parce que moi, je suis une toute petite boulangerie. Moi, je suis le patron, je travaille avec mon épouse, et depuis le 1er janvier 2026, il a fallu la passer en conjoint salarié.
D'accord.
Donc, vu qu'elle a le même statut qu'un salarié, pourtant c'est la patronne, hein, elle est autant impliquée que moi dans le domaine, mais elle n'a pas le droit de travailler. En fait, c'est la patronne et on lui interdit de travailler.
Alors donc, attendez, ça je vais vérifier avec Dominique Carac, mais en effet.
Oui, tout à fait.
Vous confirmez?
Écoutez, si vous prenez le statut de salarié, évidemment que vous avez les mêmes droits et aussi les mêmes obligations avec un salarié. En cas de contrôle, vous êtes.
Obligations et interdiction en l'occurrence. Patrick, vous aviez prévu d'ouvrir le 1er mai?
Oui, voilà, on nous pensait qu'un jour avant. J'ai déjà pris des commandes, moi, parce que, bon, je sais pas, les syndicats, s'ils savent comment on gère une entreprise, mais les commandes, elles arrivent pas la veille. Donc, j'ai déjà anticipé mes commandes, j'ai déjà anticipé mes matières premières, et puis là, on nous dit, ben non, vous avez pas le droit d'ouvrir. Donc, ouais, j'arrive pas trop à comprendre. Moi, vous voyez, je suis dans Loir-et-Cher, je suis sur une nationale. C'est un grand week-end de 1er mai. Je suis sur la route du zoo de Beauval. Beaucoup de passages. On m'enlève à peu près 30% de chiffre d'affaires de ce jour-là, quoi.
Et Patrick, vous allez respecter, là, au moment où on se parle, vous vous dites quoi? Que vous allez effectivement bien la fermer, la boulangerie? Ou est-ce qu'éventuellement vous allez y bosser, mais tout seul? Ou alors avec madame qui est là, mais sans être là?
Je sais pas, j'ai pas pris ma décision. Apparemment, je suis en contact avec mon expert comptable qui m'a dit qu'il y a normalement des dérogations qui dit que quand on livre, par exemple, une prison, un hôpital, une maison de retraite ou un EHPAD, à ce moment-là, on a le droit d'ouvrir. Donc, on est en train de se renseigner pour savoir. Je ne sais pas encore.
Merci Patrick. Restez bien avec nous, Patrick et Magali. Dominique Enract, est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir des dérogations? On se souvient que l'an dernier, il y avait encore un flou juridique laissant entendre que il n'y aurait pas de zèle des contrôles. Est-ce que vous vous attendez aussi à ça cette année?
Écoutez, on aurait aimé avoir quelque chose de clair. Parce que l'an dernier, c'est vrai qu'on avait vu un peu essayer de se donner des obligations aux boulangers, hôpital, hôtel, EHPAD, etc. à livrer. De toute façon, ce qui est quand même une bonne raison. Mais on a eu quand même 22 contrôles. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va être?
Mais l'un de vos confrères ou consoeurs a-t-il été condamné?
Mais pour l'instant, on a eu 22 contrôles sur toute la France, ce qui n'est pas énorme.
C'est pas énorme quand même, hein.
Mais, oui, c'est pas énorme. Mais le problème aujourd'hui, moi, je peux pas dire aux boulangers, allez-y, ouvrez.
Parce qu'officiellement, ce que vous risquez, je rappelle les sanctions, c'est 750 euros d'amende par salarié, 1500 euros pour un salarié mineur, si par exemple ce sont vos apprentis. Vous allez rencontrer le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou?
Tout à fait, on va les rencontrer cet après-midi avec justement au niveau des branches et savoir comment on peut trouver une sortie, parce que nous, mai 2027, si vous voulez, ça nous apporte pas grand-chose.
Et vous y croyez-vous à cette sortie, à cet assouplissement?
Il faut absolument qu'on ait quelque chose.
Est-ce que ça pourrait être une forme, est-ce que tout ça pourrait se terminer par une forme de « et en même temps », c'est-à-dire dire d'un côté aux syndicats et à la gauche « non, non, on vote pas la loi, il y aura pas de loi », mais vous dire à vous de l'autre côté « écoutez, si vous ouvrez et si vous bossez, on vous condamnera pas ».
Bah écoutez, il y a quand même, je crois, un peu plus de 1000 inspecteurs du travail qui, eux, sont complètement indépendants et qui, selon ce qu'ils pensent, de éventuellement verbaliser. Donc, moi, il nous faudrait quand même une couverture. À l'époque, avec Martine Aubry, on avait une lettre express qui est partie quelques années derrière. Donc, à l'époque, ils avaient une couverture. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc, on va voir cet après-midi ce qu'ils proposent. Mais là,
Maître
aujourd'hui...
Dit, il y a plusieurs options à l'étude, je cite. Est-ce que vous avez une idée de ce que sont ces options?
Bah écoutez, on va voir tout à l'heure, j'aimerais vous le dire, mais nous, il nous faut absolument, moi j'ai 35 000 boulangers, là on a des appels depuis vendredi, tous les jours, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comme monsieur en ligne, comme Patrick, qui dit, ouais. Qu'est-ce que je fais.
Patrick, elle s'appelle comment la boulangerie?
C'est la boulangerie sans oignage, être sur chair.
Voilà, ce qui passe, effectivement, je suis pas sûre pour le 1er mai, mais en tout cas pour aujourd'hui. Magali, est-ce que vous entendez quand même ce que dit Patrick, par exemple, sur lui et son épouse? Est-ce qu'il faut quand même un peu plus de souplesse dans ce pays sur la possibilité ou non de travailler? Encore une fois, c'est censé être, en tout cas officiellement, sur la base du volontariat.
Bah oui, je l'entends bien, mais à un moment donné, je reste sur ma position qu'il y a un jour dans l'année où ça doit être fermé et on peut arrêter un jour dans l'année de travailler, quoi. C'est pas que la France du profit et c'est tout, quoi.
Acheter le pain la veille ou le lendemain, quoi.
Ouais, on peut dire, mais vous voyez, on parlait par exemple de métiers essentiels comme les pompiers, les policiers. La boulangerie, c'est ça aussi. Je veux dire, c'est des choses de pain.
Est-ce que votre problème, Dominique Henrac, c'est pas le succès de ce mouvement que vous avez lancé qui fait que d'autres professions ont voulu se greffer et que la liste ne s'est pas arrêtée à boulanger et fleuriste?
Bah écoutez, c'est quand même pas nous. Nous, les boulangers, ce qu'on veut, c'est ouvrir. Après, bon, c'est vrai qu'il y aurait une boucherie, une fromagerie, une pâtisserie à côté. Ça fait quand même partie des. Vous savez ce que font les Français dès qu'il y a une fête? Ils le fêtent d'une manière, je dirais, gastronomique.
Oui, donc, ils vont faire les courses le matin et ils font un déjeuner de famille.
Et après, c'est vrai que le pain est vraiment quelque chose de frais. C'est voilà la baguette. Regardez les croissants que j'apporte.
Vous avez, j'avoue que ça sent très bon dans ce, ça sent très bon dans ce studio. Vous êtes venu avec les croissants frais du matin. Merci en tout cas Dominique Henrac d'avoir réagi ce matin sur RMC. On l'a bien compris. Vous espérez cet après-midi des solutions, mais quelle qu'elle soit, il y aura au minimum un flou et peut-être même une prise de risque. C'est ce que nous disait aussi Patrick qui se demande encore s'il va ouvrir ou non. Merci à Patrick et à Magali pour leurs deux témoignages et réactions ce matin. Il est 7h50 et c'est la voix de gauche ce matin qui rentre dans ce studio comme tous les mardis. Cécile Duflot, bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Quand les chefs d'entreprise sont des femmes, les entreprises se portent mieux.
Oui, et ce sont des études qui le disent, mais ça n'avance pas beaucoup.
Donc c'est bon pour l'économie.
Exactement.
Et vous nous le dites dans un instant, il est 7h50.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Et c'est la voix de gauche, comme tous les mardis, sur RMC. Cécile Duflot, bonjour Cécile.
Bonjour.
Depuis un peu plus d'un mois, la loi oblige les grandes entreprises à avoir au moins 30% de femmes dans leurs instances dirigeantes. Ce matin, Cécile, vous vouliez réagir à cette actualité d'une start-up française.
Oui, et pour lui donner un carton rouge. La start-up, en l'occurrence, c'est une licorne, une start-up qui a réussi. C'est Vestiaire Collective. Vestiaire Collective, c'est une entreprise qui vend des produits de luxe de seconde main, qui a à peu près 700 salariés et qui avait un comité de direction paritaire, autant d'hommes que de femmes. Et les Échos nous ont appris hier que bientôt, il y en aura zéro. C'est encore plus caricatural dans cette entreprise parce que 60% des salariés sont des femmes et même 85% des clients. Donc, si ça se confirme, c'est vraiment un gros carton rouge et c'est un signal d'ailleurs que ce sujet-là est un peu en recul.
Donc, en fait, c'est plutôt un retour en arrière. Est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est le cas partout?
Eh bien, justement, non. Et c'est ça qui est problématique, c'est que l'index 2006 qui a été publié par le ministère du Travail il y a quelques semaines montre quelque chose d'assez fou. C'est-à-dire qu'au 1er mars 2026, 72% des entreprises de plus de 50 salariés comptent moins de 40% de femmes parmi leurs cadres dirigeants. Et c'était 73 en 2025. Donc ça a reculé. Et pareil pour les instances dirigeantes. Donc pourquoi on le sait? Parce qu'il y a une loi qui pour l'instant oblige seulement les entreprises à répondre.
Selon vous, il faudrait une loi pour publier les statistiques?
Alors, il y a déjà cette loi qui publie les statistiques, mais il faudrait avancer. C'est la loi Rixin, une loi de 2001-2021 qui vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Le but, c'est qu'il y ait plus de femmes dans les postes de direction et puis qu'on garantisse aussi pas d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Et cette loi suivait une autre loi, c'est ça qui est intéressant. Une loi qui devait tout régler et qui pourtant n'a pas marché, c'est la loi Copé-Zimmermann.
c'était normalement l'idée, effectivement, d'avoir une sorte de parité. Pourquoi il faut des lois pour tout ça?
Eh bien, parce que figurez-vous qu'en 2011, au moment où la loi Copé-Zimmermann est votée, ça fait 30 ans qu'on dit qu'on va améliorer la place des femmes dans les conseils d'administration. Il y en a 10%. 10%, c'est vraiment un chiffre très, très bas. Il y a eu des chartes d'entreprise, des recommandations de gouvernance, des engagements, des incitations, et rien ne s'est passé. En 30 ans, ça stagne autour de 10%. Donc, il y a cette loi qui dit qu'il va falloir le rendre obligatoire sous peine de sanction.
Sauf qu'en fait, il n'y avait pas forcément besoin de quotas. Si on regarde l'économie, et c'est votre dernier argument et c'est sans doute le meilleur, finalement tout ça, ça porte ses fruits.
Et oui, parce que cette loi, elle a été contraignante, c'est-à-dire qu'elle a dit que les hommes qui étaient au conseil d'administration, ils seraient plus payés s'il n'y avait pas 40% de femmes. Et ben, résultat, bim,
ah bah là,
en 10 ans, ça a marché. Et on pensait que ça allait faire pareil pour les comités de direction, ça marche pas et c'est vraiment dommage, alors que les études internationales et même les études françaises sont très claires. Les entreprises où il y a des femmes dans les comités de direction sont plus rentables financièrement et ont aussi des modèles beaucoup plus stables et beaucoup plus robustes. Donc c'est normal qu'il y ait plus de femmes, mais c'est même en plus mieux vivre les quotas pour ce qu'ils produisent.
Merci Cécile Duflo, vous êtes donc vraiment favorable à les mettre, ces quotas.
Je suis favorable aux résultats. Je n'aime pas tellement les quotas, mais j'aime bien ce qu'ils fabriquent, c'est-à-dire du mieux pour tout le monde, pour les femmes et pour les entreprises.
Cécile Duflo, ancienne ministre, voix de gauche sur RMC, demain à votre place. Ce sera la voix de droite dans un instant, le journal de 8h avec à la une le prix des carburants. Vous le verrez. Ça stagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, on va continuer à parler du conflit au Moyen-Orient avec une victime collatérale.
Oui, vous connaissiez la crise de l'or noir. Eh bien, je vous parle de la crise de l'or vert.
De l'or vert ?
L'or vert.
Vous allez me dire ça dans un instant. C'est quoi, c'est la pistache ?
C'est la pistache.
Allez, j'ai deviné. Il y aura aussi la météo. Ça se réchauffe aujourd'hui. Il est 7h56, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans une poignée de secondes, il sera 8h. Très belle journée sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On va vous expliquer pourquoi, en fait, les prix des carburants n'ont baissé que d'un centime depuis le cessez-le-feu au Moyen-Orient, moins que prévu donc, et pourquoi aussi le mois d'avril sera pire que le mois de mars. C'est ce que dit ce matin l'Agence internationale de l'énergie. Après le recul sur le 1er mai, le gouvernement s'attaque à une autre patate chaude. C'est le sort des ZFE. Et puis on vous donnera des dernières nouvelles ce matin du PSG. On est au matin du quart de finale retour de Ligue des Champions à Liverpool.
On n'est pas franchement rassuré ce matin quand on écoute l'alerte de l'Agence internationale de l'énergie.
Non, elle nous dit que le mois d'avril sera donc certainement pire que le mois de mars pour le secteur de l'énergie. Alors Romain Houg pour RMC, c'est le directeur de l'agence qui a dit ça au 48e jour du conflit au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui lui fait dire ça ?
C'est avant tout un problème de livraison. Certains navires ont pu livrer le mois dernier du pétrole qui avait été chargé avant le début de la crise. Depuis, et c'est encore plus vrai avec le blocus américain, plus une goutte ou presque ne quitte le détroit. La pression est telle sur le marché du pétrole que le patron de Total insiste, il est crucial de rouvrir le détroit d'Ormuz. Patrick Pouyanné l'a dit hier soir, même si cela implique de verser une compensation à qui que ce soit.
À propos des prix des carburants, les distributeurs, on s'en souvient, avaient promis des baisses allant de 5 à 10 centimes, des baisses rapides, c'est ce qu'ils disaient. Ils s'étaient précipités devant les micros. Finalement, rien du tout. La baisse a été de 1 centime depuis le cessez-le-feu. Comment ça se fait ?
D'abord, les distributeurs invoquent une raison d'ordre technique. Les stations devaient attendre de vider totalement leurs cuves avant de pouvoir les remplir avec des livraisons légèrement moins chères, mais le cours du baril de Brent est resté élevé, frôlant voire dépassant les 100$. Ce qui tire aussi la moyenne vers le haut, ce sont les stations du groupe Total. Elles représentent un tiers du réseau de stations-service en France. Le groupe a revu son plafond à la hausse pour le gazole qui vous coûte désormais 2,25€ le litre. Et si la paralysie du détroit venait à durer plus de 3 mois, là, de sérieux problèmes d'approvisionnement commencerait à se poser, dit Patrick Pouyanné, notamment pour le kérosène, ce qui obligera, selon lui, à rationner les avions ou le diesel.
Voilà donc pourquoi les prix n'ont pas baissé comme prévu. La situation dans le détroit d'Ormuz ce matin, depuis hier après-midi, les Américains font un blocus en amont, vous savez, du blocus iranien. Ce matin, il y a un pétrolier chinois sous le coup de sanctions américaines qui s'est malgré tout aventuré dans ce détroit. Après l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran, c'est ce mardi que doivent s'ouvrir d'autres discussions entre Israël et le Liban, celle-ci, où les frappes israéliennes ont fait plus de 2000 morts depuis le début du mois de mars. Alors chez nous, en France, on assiste à un festival de « en même temps » de la part du gouvernement qui a donc décidé de ne pas changer la loi cette année sur le travail le 1er mai. On en parle beaucoup ce matin sur RMC, en autorisant quand même des dérogations pour les commerces de proximité qui seront reçus dans la semaine à Matignon. Mais ça vaut cette violente charge ce matin de Yaël Braun-Pivet. La présidente de l'Assemblée nationale dénonce un échec de la concertation. Elle reproche au gouvernement de ne pas avoir négocié avec les syndicats alors qu'il avait un an pour le faire. « Je n'en peux plus de ce pays où on ne se parle pas ». Voilà ce que dit Yaël Braun-Pivet. Et c'est pareil pour les ZFE. 2 ans qu'on en parle, il était question de supprimer ces zones à faible émission en place dans 25 agglomérations pour limiter la circulation des véhicules les plus polluants. Et bien finalement, le gouvernement va proposer cet après-midi à l'Assemblée une version allégée. Ce seront aux métropoles de trancher, de les mettre en place ou de les maintenir, Grégoire Morelli.
Oui, comme à Lyon, où la métropole récemment passée à droite pourrait revenir sur le dispositif. Pour le sénateur écologiste Thomas Dossus, cela ne fait même aucun doute.
Si la loi est votée telle quelle, la nouvelle présidente de la métropole ne va pas rétablir la zone à faible émission sur Lyon. La lutte contre la pollution de l'air ne rentre pas dans les politiques publiques qu'elle veut mener. On le voit bien, puisqu'elle veut rouvrir la circulation automobile à des voies qui ont été piétonnisées ou limitées.
Pierre Leflève, responsable transport au sein de l'association Réseau Action Climat, dénonce un manque d'ambition sur le plan national.
Les collectivités, elles peuvent pas tout faire là-dessus. Et il y a un rôle de l'État qui est essentiel, et en se dégageant ainsi, il renvoie la patateuse, si vous me permettez l'expression, du côté des collectivités. Il y a fort à parier que, vu que c'est pas un outil facile à mettre en place et qui en plus a été beaucoup polarisé et instrumentalisé politiquement ces derniers mois et ces dernières années, il se passe pas grand-chose.
Selon lui, il s'agit d'une mesure importante pour préserver la qualité de l'air. Il rappelle que chaque année, la pollution est à l'origine de 40 000 décès prématurés.
Normalement, c'est pour aujourd'hui. Je dis normalement, le verdict au procès de chef présumé de la DZ Mafia, jugé depuis un mois, vous savez, aux assises d'Aix-en-Provence pour un double assassinat en 2019. Dans la région de Marseille. En fait, rien ne s'est passé comme prévu durant ce procès qui a été émaillé d'incidents et le verdict sera rendu avec 4 jours de retard. Il est 8h05 sur RMC et c'est dans moins d'une heure, à 9h tout à l'heure, que va s'ouvrir le tout premier Conseil de Paris, autrement dit le conseil municipal dans la capitale. Ce sera le premier du nouveau maire Emmanuel Grégoire et il sera en grande partie consacré aux affaires de violences sexuelles qui se sont multipliées ces derniers mois dans les écoles de la capitale. Bérangère Bocquillon, vous êtes la chef du service société à RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. Emmanuel Grégoire en a fait la priorité absolue de son début de mandat. Il a annoncé il y a 10 jours déjà la suspension de 78 agents depuis le début de l'année et vous nous révélez ce matin, Bérangère, eh bien que depuis il y a eu d'autres suspensions.
Oui, au moins 11 animateurs ont été suspendus ces 10 derniers jours selon la CFDT. Dû à une explosion des signalements de parents, le nouveau maire de Paris a répété qu'à la moindre alerte, l'agent est suspendu. La semaine dernière, une animatrice qui venait d'être embauchée après avoir effectué les 2 jours de formation désormais obligatoire pour les nouveaux agents a été suspendue. Ou encore le responsable du périscolaire d'une école maternelle du 11e arrondissement visé par une plainte pour agression sexuelle. Les parents ont appris que ce responsable avait déjà fait l'objet d'un signalement en 2019 pour les mêmes faits. Les agents du périscolaire dénoncent un climat de suspicion généralisée. Les animateurs n'osent plus élever la voix ni changer un enfant, m'expliquent les syndicats. L'association de parents SOS Périscolaire répond que c'est le prix à payer pour purger un ancien système complètement défaillant.
Bérangère Bocquillon en direct ce matin pour RMC. Il sera aussi question lors de ce Conseil de Paris de l'avenir du Parc des Princes et de la reprise des discussions avec le Paris Saint-Germain qui, si on en croit les statistiques, a 87% de chances de poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. Le PSG jouera à Liverpool ce soir, quart de finale retour de la Ligue des Champions, donc avec 2 buts d'avance. On se souvient que les Parisiens ont gagné 2-0 au match aller. Valentin Jamin, vous êtes déjà dans le nord de l'Angleterre ce matin pour RMC, où on attend encore des merveilles de l'attaquant géorgien Kvaratskhelia qui brille à peu près à chaque match de Ligue des Champions cette saison.
Oui, les supporters se sont habitués à sa célébration. 2 doigts posés sur son avant-bras gauche pour dire « Regardez mon sang-froid », surtout en Ligue des Champions. Kvaratskhelia a inscrit 8 buts cette saison, 2 fois plus qu'en Ligue 1. Il impressionne son coéquipier Warren Zaïre-Emery.
Quand t'as un joueur comme ça, il faut tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions. C'est un joueur qui a cette faculté à dribbler avec une frappe juste incroyable. C'est un plaisir de l'avoir avec nous.
Avant tout sur la scène européenne, donc, où il vient d'inscrire 5 réalisations en 4 matchs. Meilleur buteur parisien dans la compétition. l'ailier n'étonne pas Amiran Chamelaïchvili, journaliste qui suit la sélection géorgienne.
Je pense qu'il est plus motivé par les gros matchs. Il se prépare mieux, il sait se mettre la pression pour les rencontres à enjeu comme Liverpool ou Chelsea. Il sent qu'il doit faire plus, peut-être plus que les autres, et ça l'aide.
Au PSG, ses différences de niveau ont pu interpeller, mais à 25 ans, il est un pilier de son entraîneur Luis Enrique.
Il est un joueur très jeune, mais avec beaucoup d'expérience. C'est normal d'être plus motivé quand tu joues la compétition plus importante.
L'attaquant est encore attendu ce soir à l'aller. Il avait tenté à lui seul plus de tirs que toute l'équipe de Liverpool.
Bon, évidemment, on vivra ça ce soir sur RMC, soirée spéciale RMC en direct d'Anfield, le stade de Liverpool. Et il y aura à la même heure un autre match, une autre belle affiche 100% espagnole, le match du Barça qui a été battu 2-0 la semaine dernière par l'Atlético.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h07, vous êtes bien sur RMC et vous êtes de plus en plus nombreux surtout à nous écouter sur RMC dans Apolline Matin. Les audiences radio viennent d'être publiées par Médiamétrie pour la période janvier à mars, et merci d'être donc toujours plus nombreux à écouter la matinale d'RMC. RMC qui se classe 3e radio de France en part d'audience, 2e vague consécutive de hausse pour Apolline Matin. C'est donc une fierté, un bonheur d'être avec vous chaque matin. C'est vous qui faites Apolline Matin. Merci pour votre fidélité. Il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
C'est l'une des conséquences de la guerre au Moyen-Orient, le cours de la pistache. Alors ça, c'est quand même, on ne l'avait pas vu venir, le cours de la pistache au plus haut depuis 8 ans.
Oui, Apolline, parce que la guerre de l'or noir cache une autre guerre, la guerre de l'or vert, car il est un autre produit de base que le pétrole, au cœur de la rivalité entre les États-Unis et l'Iran. Il y a donc la pistache. Figurez-vous que l'Iran a été très longtemps le premier producteur mondial de pistaches. Il n'est plus aujourd'hui que le deuxième derrière.
Les États-Unis, non ?
Les États-Unis, ouais, qui sont devenus un géant de cette petite gourmandise. Les prix de ce fruit à coque, du coup, sont en train de grimper et ont atteint leur plus haut niveau depuis 8 ans. On est à 4,57 $ la livre. C'est 30% de plus qu'il y a 2 ans. Alors, il y avait eu d'abord, en 2024, une première vague de hausse des prix provoquée par l'engouement pour le chocolat de Dubaï, recette à base de pistaches, au moment où les récoltes américaines avaient été mauvaises. Il y a maintenant les mauvaises récoltes iraniennes et surtout la difficulté d'acheminer ces pistaches sur le marché mondial à cause de la guerre.
Pour l'Europe, c'est presque plus problématique que l'approvisionnement en pétrole ?
Oui, figurez-vous que l'Europe n'achète quasiment pas de pétrole iranien. En revanche, l'Iran est un des gros fournisseurs de l'Europe en pistaches. Et faute de pistaches iraniennes, il faudra se tourner vers les États-Unis qui vont encore faire grimper les enchères. C'est un peu comme pour le gaz naturel ou le pétrole. L'Inde risque aussi d'être affectée puisqu'elle importe chaque année pour 9 milliards de dollars de pistaches. La Turquie, troisième producteur mondial, aura du mal à compenser car la récolte a également été mauvaise. Grosso modo, bah ça veut dire que sur tous les produits qu'on achète, plus la teneur en pistache est forte, plus les prix vont augmenter. Si vous prenez par exemple
la glace à la pistache,
alors moins que le petit paquet de pistache pour l'apéro, vous voyez. Voilà, mais là sur le paquet de pistache pour l'apéro, faut s'attendre facilement à 20 à 30% d'augmentation. Comme la pistache entre dans une moins grande proportion dans la composition de nos glaces, la hausse sera moins forte, mais elle sera quand même substantielle. La glace à la pistache, oui, sera chère.
Sera un peu plus cher cet été. Emmanuel, comme chaque matin sur RMC, les tendances sur les prix de l'énergie, ça monte ou ça descend ?
Alors, ça monte ou ça descend ? Eh bien, sur les carburants, ça descend un petit peu, et plus d'ailleurs que les chiffres qu'on entend, c'est assez bizarre, les chiffres qui sont relayés de 1 centime, etc. Bah, c'est pas les vrais, enfin, je sais pas où sont,
vous avez 5 centimes de baisse.
Moi, grosso modo, on est sur le gazole, on est à 2,28, ce qui représente quand même une baisse de 7 centimes par rapport à la fin de semaine et par rapport aux chiffres qui sont donnés par le gouvernement, notamment qui nous dit il y a eu 15 centimes de baisse. Je sais pas, voilà. Sur le sans-plomb 95, on est quand même pareil par rapport à la fin de semaine dernière à presque 5 centimes de baisse. Donc, vous voyez, par rapport à la fin de semaine dernière, moins 7 sur le gazole, moins 5 sur le sans-plomb. Le pétrole, on est à 96,5 contre 98,5 hier. C'est plus haut que la fin de semaine dernière à cause du blocus.
Mais ça reste sous les 100.
Ça reste quand même sous la barre des 100 dollars. Et puis le gaz, hein, on est stable autour de 46 euros le mégawattheure sur le marché européen. Depuis quelques jours, assez stable le marché du gaz.
Merci Emmanuel Le Chypre. Il est 8h11 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Jusqu'à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. Recul du gouvernement sur le 1er mai, prix des carburants. Défaite d'Orban en Hongrie. Le monsieur économie est l'un des piliers du RN, sera donc mon invité. Juste après, il y aura aussi face à Canteloup. Tous les matins, Nicolas Canteloup est en direct à 8h50 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15. Arnaud de Manche est avec nous. Salut Arnaud.
Oh, comme je suis bien annoncé.
Oui.
Bonjour, bonjour c'est Apolline
chic.
De Malherbe.
C'est solide.
C'est très chic, c'est très poli et très respectueux. Ça, c'est Apolline. Poli et respectueuse. Je dis ça parce que c'est pas le cas de tous les animateurs radio. Vous avez vu l'animateur de Skyrock, Cédric le Belge, qui a été interpellé parce qu'il s'est fait passer pour un lieutenant de police après un accident routier près de l'Elysée. Vous avez vu j'espère. Non, mais c'est authentique. J'espère qu'il ne va pas aller en prison. Enfin, au moins là-bas, il pourra recruter pour les planètes rap. Mais c'est pas Apo qui ferait ça, quoi. Et les interrogatoires de police, c'est dans le face-à-face, lieutenant de Malherbe. Tiens, tant qu'on parle de chanteurs qui vont finir en cabane, est-ce que vous avez vu Vianney?
Ouais.
Il a terminé, Vianney, la construction de sa cabane en bois qu'il a faite tout seul et il compte s'y enfermer un mois afin de composer son prochain album. On dirait un génie qui réalise le vœu de quelqu'un qui aime pas Vianney. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre le mari d'une Sandrine qui s'est fait traîner à un concert et qui a dit oh, Vianney, Vianney, y en a marre, j'en peux plus, vivement qu'on l'enferme dans une cabane dans les bois. Et hop. Et il le fait lui-même en plus. Pauvre madame Vianney, hein. Viannette. La pauvre. On se lève tous pour Vianney.
Eh ben, n'importe quoi.
Malheureuse. Non, mais elle a épousé une star de la chanson. Elle se disait, ah, les palaces, la Côte d'Azur. Et elle se retrouve avec un bûcheron qui se fait le lifestyle de Michel Fourniret. Dans une semaine, Vianney, il se lèvera, il fera,
mais t'es où? Mais t'es pas là.
Bah, tu m'étonnes. Elle se sera barrée. Une cabane dans les bois, humide, sans chauffage, avec Vianney qui chante des chansons sur le scoutisme et la menuiserie. Je suis sûr qu'on va avoir des reportages là-dessus. C'est genre un vieux fréquence star.
Salut, aujourd'hui, on est avec Vianney. Vianney, après 10 ans de montage de bibliothèque IKEA, celui qu'on appelle le castor de la pop, s'est lancé un nouveau défi, une cabane en forêt. Salut Vianney, alors pourquoi cette cabane?
Alors en fait, j'avais besoin d'être connecté à la nature.
C'est super. Alors, est-ce que ton prochain album, tu vas le composer dans la cabane et il va avoir pour thème la construction de la cabane? C'est quoi les titres?
Alors, il y aura toi, mon toit. Ou alors, quand on veut, on peut. Une écharde dans mon cœur. J'ai mis ta langue de bois. Mets ta poutre entre mes mains. Je te poncerai du soir au matin.
C'est très beau.
C'est magnifique.
Et il est fier en plus d'être arrivé au bout d'une cabane en bois, ce nul de Thomas Pesquet. Lui, il aurait construit un hôtel particulier haussmannien, sans tuto et en deux fois moins de temps. C'est quand même Thomas Pesquet, ça volerait.
Le premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un grand plan d'électrification du pays.
Oui, c'est pour moins dépendre du pétrole et du gaz étranger, donc on va mettre de l'électrique partout.
Ouais.
Et alors, vous savez que si l'extrême droite passe dans un an, le plan va s'accélérer. Hein. Jordan Bardella, il va nous déclarer...
Mes chers compatriotes, vous connaissez la formule. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des Arabes. C'est pourquoi, s'ils veulent continuer à toucher le RSA, ils devront pédaler 8 heures par jour sur un vélo d'appartement afin de produire de l'électricité. Ça réparera les conneries que font leurs cousins en Iran. Ça promet, ça va être affreux. Affreux.
Donald Trump s'en est pris au pape. Il a écrit sur son réseau social qu'il le trouvait faible et trop à gauche.
Oui, alors, ça nous paraît curieux à nous que Donald Trump trouve le pape faible parce que au contraire, on n'a jamais eu un pape aussi en forme, je trouve, justement. Ici, il avait vu Jean-Paul II en fin de cycle. Il était mou, il était à moitié décédé, il parlait lentement. C'était Paul Mirabel en pape, quoi.
Mais bien, chers frères, ceci est mon corps. Mangez-en tous. J'espère juste que vous n'avez pas trop faim.
parce qu'on va être un peu short sur les quantités. Non, c'est que dans l'imaginaire de Trump, en fait, le pape, je sais pas ce que c'est censé être Schwarzenegger en Marcel Blanc, quoi, avec un flingue en forme de crucifix, un grand tatouage de la Vierge dans le dos, une cape immaculée, et qui dit
« Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde !»
Alors Donald Trump a agrémenté son poste d'une image de lui en intelligence artificielle dans lequel on le voit, vous l'avez vu l'image,
exceptionnel,
incroyable,
exceptionnel.
Il est en toge blanche et rouge, il pose sa main sur le front d'un malade sur un lit d'hôpital, entouré de gens qui prient, et dans le fond il y a un drapeau américain, des aigles et des anges. Il manque que Johnny Hallyday et un loup qui hurle devant une pleine lune. Je pense qu'on avait la totale. Il est à deux doigts d'attaquer le Vatican, en fait.
Oh, le Vatican, de toute façon, c'est comme en Iran. C'est une théocratie, les hommes s'habillent en robe, les femmes sont voilées. Et ses conseillers lui ont quand même dit d'épargner la chapelle Sixtine. Sixtine ? Oh, très bel âge, Sixtine. Sixtine, c'est 16 ans, c'est mon âge préféré. Avec mon ami Jeffrey Epstein. Bah merde, s'il croit qu'elle a 16 ans, la chapelle Sixtine, là, ça va mal finir. Attention.
Attention.
Attention, à demain.
À demain, Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les jours. Évidemment, en direct, 7h20, 8h20, à tout moment, en podcast et en tournée. Attention, vous m'avez fait une petite
dans
liste.
Dans le monde entier.
À Morières-les-Avignons, à Genève, à Nice, au Garric, à Chambéry, à Gaillac ou encore à Orange, un spectacle RMC World Wild. Il est 8h20. Kevin est avec nous. Du Vaucluse, vous êtes au Pertuis. Bonjour Kevin, comment ça va ?
Bonjour, ça va et vous ?
Ça va bien, vous êtes artisan, électricien. Et vous vouliez réagir quoi sur le 1er mai ? Alors ça devait être finalement ouvert à certains pour pouvoir bosser le 1er mai. Le gouvernement renonce, vous en êtes où vous ?
Personnellement, dans l'artisanat, nous, ça nous arrive souvent de travailler le 1er mai. Après, moi, pour être avec vous, je comprends pas trop le débat, quoi. C'était ouvert à ceux qui voulaient travailler volontairement. Je vois pas en quoi ça dérange les autres si les gens ils veulent aller travailler, surtout pour les temps qui courent, en fait, actuellement. Si les gens ils veulent gagner un peu plus d'argent pour essayer de s'en sortir un peu plus à la fin du mois, je vois pas en quoi ça dérange, personnellement.
Oui, le fait qu'on interdise à ceux qui, parce qu'effectivement, on a eu de nombreux témoignages, hein, de gens qui, alors, on a eu aussi d'autres qui disaient c'est bien dans l'absolu qu'on ait quelques jours où on est sûr de pas bosser, mais il y a eu quand même de nombreux témoignages dans différents secteurs où les gens disaient, bah, moi, j'ai envie de pouvoir bosser le 1er mai et de pouvoir gagner double, surtout.
Oui, exactement. Alors, je veux bien que les syndicats s'opposent, mais bon, les syndicats sont toujours en train de s'opposer à tout et on voit que, actuellement, ça ne fait pas trop avancer les choses. On voit la situation de la France actuellement. Donc, si les gens, ils veulent aller bosser, je vois pas en quoi on les empêcherait d'aller bosser, quoi.
Vous trouvez que la méthode du gouvernement, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'ils ont ouvert l'idée de pouvoir bosser le 1er mai, et puis là, à 15 jours du but, ça renonce.
Bah ouais, c'est bizarre. Ouais. Pour rester avec vous, moi je trouve ça bizarre, surtout les commerces. Si les gens, ouais, moi ce que je comprends pas, c'est d'empêcher les gens de vouloir aller bosser. Encore, on les aurait imposé d'aller travailler, par exemple dans les grandes surfaces, on leur impose d'aller venir travailler, que les gens ils ont pas envie, des vacances de prévu, des week-ends de prévu, oui, je comprendrais. Mais là, les gens, ils ont prévu de pouvoir aller travailler. Je vois pas en quoi c'est dérangeant.
Ouais. Merci beaucoup Kevin d'être intervenu sur RMC. Des messages Mathieu sur cette question.
Ah oui, énormément cette question du 1er mai. Je suis chauffeur routier, nous dit Dilo. Si on me demande de travailler le 1er mai à condition que ce soit payé double et sur la base du volontariat, ça ne me dérange pas. Philippe nous dit le jour où tous les boulangers fermeront le 1er mai, tout le monde va pleurer. Marie, elle nous dit je suis désolé, mais ça n'est pas toujours au volontariat. Le patron vous dit il me faut autant de personnes avec autant entre guillemets et c'est tout. Personne ne discute. Qui sont les syndicats qui ne représentent plus rien, nous dit cet autre message. Vous continuez au 06 12 424 424.
Vous n'hésitez pas, vous connaissez le chemin. Il est 8h23, dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme. J'interrogerai évidemment sur ce 1er mai qui pouvait potentiellement ne plus être chômé pour certains, qui le restera sans doute. La position du gouvernement et la position du RN, c'est donc dans un instant sur RMC BFM TV. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Un pétrolier chinois traverse en ce moment même le détroit d'Ormuz. Il est pourtant visé par des sanctions américaines et les États-Unis, vous le savez, imposent depuis hier un blocus des ports iraniens dans la zone. Marche arrière pour le gouvernement sur la réforme du 1er mai et celle qui devait permettre à certains patrons de faire travailler leurs salariés ce jour férié. Elle a été repoussée à l'année prochaine. Sur RMC ce matin, le président de la Confédération des boulangers se dit dépité. Les syndicats, eux, crient victoire. Je vous donne la réaction de la présidente présidente de l'Assemblée nationale. C'est un échec de la concertation, dit Yael Braun-Pivet. Je n'en peux plus de ce pays où on ne se parle pas. Fin de citation. C'est une information RMC. Les enquêteurs privilégient la piste accidentelle à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, là où un collégien est mort d'une balle dans la tête hier. Deux adolescents ont été interpellés. L'inspection de l'éducation nationale doit arriver ce matin à Hagenbach. Début de l'enquête administrative dans ce village alsacien où un enfant a été séquestré pendant plus d'un an dans une camionnette sans que personne ne s'en aperçoive. Son père a été placé en détention provisoire hier. Conseil municipal extraordinaire à Paris. Aujourd'hui, le premier pour le nouveau maire Emmanuel Grégoire, en partie consacré à cette affaire de violence sexuelle impliquant des animateurs périscolaires. Il y a des jours, on comptait 78 agents suspendus. RMC vous révèle ce matin qu'il y en a eu 11 supplémentaires depuis. L'événement foot de la soirée, il est sur RMC évidemment. Coup d'envoi à 21h du quart de finale, retour de la Ligue des Champions. Liverpool face au Paris Saint-Germain. Les Parisiens l'avaient emporté 2-0 à l'aller. Il y aura aussi le match retour entre l'Atlético Madrid et le Barça. 2-0 pour l'Atlético au match aller. Et puis la météo, davantage de soleil. Aujourd'hui, encore quelques averses sur les reliefs de l'Est. Un temps agité en Corse. On aura aussi un peu de pluie vers la Bretagne, les Pays de la Loire et le Cotentin. Température, elles seront en hausse cet après-midi de 15 degrés à Strasbourg et Aurillac jusqu'à 22 degrés à Montpellier. Il fera 17 à Lille ou encore 21 à Marseille.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité, c'est le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. On va parler évidemment du 1er mai. Finalement, la loi ne sera même pas votée. Le 1er mai restera chômé. Puis je lui poserai la question, est-ce qu'il est plutôt Pape ou Donald Trump, Orban ou son successeur? Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Anne de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions. Merci ce matin. Vous êtes député RN de la Somme, vous êtes membre de la commission des finances. De nombreuses questions, notamment sur le pouvoir d'achat, à vous poser ce matin. 1er mai, ça restera à chômé, le gouvernement renonce. Vous en pensez quoi?
Je pense que c'est très dommage parce que c'était massivement soutenu par les Françaises, les Français, y compris les salariés. Moi, je me souviens quand j'étais serveur, on se battait pour travailler le premier parce que c'était payé double dans la restauration, contrairement à beaucoup de jours fériés d'ailleurs, et on comprend pas. Alors c'est l'inaction, mais je trouve que ça traduit, au-delà de la mesure elle-même, ce fait que ce gouvernement ne peut rien faire, ne fait rien, ne sert à rien, n'a aucune autorité, a peur de son ombre, parce que c'est quoi le script derrière? C'est pas que M. Lecornu est contre la mesure elle-même, je pense. Il y a très peu de gens qui sont contre, et lui-même, à mon avis, était plutôt en faveur. C'est qu'il a peur de son nombre. Il a peur des syndicats, il a peur d'une manifestation, il a peur d'une censure. Donc, à quoi sert un gouvernement, si vous voulez, Madame de Malherbe, avec toutes les crises que l'on traverse, tous les défis qu'on a objectivement à relever, s'il n'a aucune marge de manœuvre, aucun courage, aucune habilité à prendre d'autres mesures que juste sauver ses fesses au fil des semaines et éviter une censure? Vraiment, pour les gens qui nous regardent, pour les gens qui travaillent
dur. C'est la peur de la censure.
Mais c'est la peur de tout. Ils ont peur d'une manif, de la censure, de mécontenter je ne sais quel groupe politique en particulier, le socialiste. J'ai entendu hier, dans les couloirs de l'Assemblée, et je vous jure que c'est vrai.
Vous allez encore me parler de vos petites taupes?
Oui, mais je suis pas un menteur. Enfin, ça fait quand même un petit bout de temps que vous m'interviewez. Vous m'avez rarement pris en défaut de mentir. J'ai quelques défauts, mais j'ai pas celui-là. On va quand même pas compter sur le Rassemblement National pour pas nous censurer si les socialistes nous censurent. Enfin, vous voyez, ce genre de billard à trois bandes, où on anticipe des comportements des uns et des autres, au lieu de savoir si la mesure est bonne pour la France en elle-même, et surtout sur une mesure là qui est quand même très anecdotique.
Alors,
c'est-à-dire
elle
qu'ils vont
était
rien
soutenue
faire.
Notamment par Gabriel Attal, qui s'était engagé en faveur de cette loi. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, s'est félicitée, je cite, d'avoir enfin quitté le monde des mythos de Gabriel Attal pour revenir à la raison.
Oui, je comprends pas trop cette interpellation. Bon, moi, je suis pas là pour défendre.
Elle estime que la raison, c'est effectivement qu'il y ait un jour chômé, ce 1er mai, qui est le jour des travailleurs.
Non, mais il est pas chômé pour beaucoup de gens, et vous le savez très bien. Vous-même, vous avez beaucoup de travailleurs qui vous appellent sur RMC notamment. c'est un jeu qui est travaillé pour
beaucoup de soignants, de ceux qui disent le faire,
pour des artisans
volontairement et aussi pour être payé double.
Oui, ben dans la restauration par exemple, parce que oui, moi j'ai interpellé hier madame Binet sur une autre antenne, je lui ai dit mais pourquoi les syndicats ne se battent pas plutôt pour que tous les jours fériés dans toutes les conventions collectives aient un salaire doublé quand on travaille. Il y a beaucoup de conventions où
il n'y a que sur le 1er mai que la mesure soit absolument obligatoire.
Ben oui, mais c'est dommage. Et je pense qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui nous écoutent qui ne le savent pas. Et qui ne savent pas qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ne sont pas payés double quand ils travaillent les jours fériés, pardon, les dimanches, parce qu'il y a des conventions où aussi le dimanche n'est pas doublé.
Mais c'est précisément l'un des arguments des syndicats qui vous disent aujourd'hui, au début, à chaque fois, on nous fait le coup. Le dimanche, vous serez payé plus, ce sera optionnel, ce sera sur la base du volontariat. Les jours fériés, ce sera sur la base du volontariat. Et puis, petit à petit, il y a une dérive. Et ceux qui bossent le dimanche, en réalité, ça devient partie de leur contrat et c'est donc un jour comme les autres.
Mais c'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est pour que ce droit soit effectif et pour qu'il n'y ait pas d'exception dans les branches, une fois plus. Mais c'est pas vrai que les syndicats se battent là-dessus, on les a jamais entendus là-dessus. C'est pas un combat prioritaire. D'ailleurs, moi, je profite d'ailleurs de cette histoire du 1er mai pour signaler qu'il y a peu aujourd'hui de combats syndicaux sur la vraie conquête de droits, la vraie conquête d'avancées sociales. Les syndicats sont toujours en défensif sur la défense d'un nombre de prébendes. Et le 1er mai, c'est quoi? C'est quand même pouvoir défiler avec les petits copains et que les syndicats veulent se compter le 1er mai. On est quand même très loin de l'intérêt général. Moi, je renouvelle d'ailleurs ma volonté de débattre avec Madame Binet, avec Madame Léon, avec les dirigeants syndicaux.
Rendez-vous pris.
Ben oui, mais ça fait 4 ans qu'ils refusent de débattre avec les dirigeants du Rassemblement National. En 2022, ils avaient refusé de débattre avec Marine Le Pen, hein, qui est quand même très loin, quoi qu'on en pense, première chez les salariés, chez les employés, chez les ouvriers, et ils refusent de débattre avec nous sur les droits sociaux.
Ce qui n'est pas le cas des patrons, on y reviendra, puisqu'ils ont non seulement déjeuné avec Marine Le Pen, mais ils s'apprêtent à déjeuner avec Jordan Bardella. Jean-Philippe Tanguy, quand même une question encore, parce que dans les faits, ce sera sans doute une forme de confusion, puisque certes, il n'y aura pas de loi votée sur l'élargissement des options de travail le 1er mai, mais dans le même temps, le gouvernement laisse entendre qu'il va recevoir les représentants, notamment des boulangers, des fleuristes, et qu'il pourrait y avoir, je cite, des dérogations.
Oui, mais enfin, c'est toujours, on comprend rien. Voilà, pourquoi ne pas choisir la clarté? Pourquoi ne pas choisir, un dispositif clair qui permet à tous les salariés, justement, de connaître leurs droits? Et on en revient, en fait, à votre vraie question, c'est-à-dire aux abus, aux dérives. C'est que, comme c'est toujours des dérogations, des exceptions.
Est-ce qu'on s'assure vraiment que ceux qui travaillent le 1er mai le font vraiment par choix?
Mais non, c'est parce que la loi n'est pas claire. Justement, quand vous avez tant de confusion, quand vous êtes une mère ou un père de famille, votre journée est bien chargée, vous avez beaucoup de choses à faire, qu'en plus, la loi n'est pas claire, que vous savez pas ce qui s'applique. Et là, il peut y avoir effectivement certains patrons qui peuvent abuser de la situation, utiliser cette confusion pour ne pas exercer leurs droits. Moi, je me souviens, j'ai travaillé 5 ans dans la restauration. C'est vrai que c'est un des métiers où il y a un vrai déséquilibre entre les salariés et les patrons parce que c'est un travail assez harassant, c'est un travail où vous êtes très occupé, vous connaissez pas vos droits. Il n'y a pas de syndicat aussi dans les petits restaurants, dans la petite restauration. Donc en fait, les salariés sont un peu seuls pour connaître leurs droits. Or, dès que c'est pas clair, dès qu'il y a de la confusion, il n'y a pas d'exercice des droits. Donc en fait, on est dans le résultat inverse de la situation et les droits des travailleurs ne sont pas exercés parce qu'on n'est que dans le blabla et ces espèces de zones grises où personne ne comprend rien parce que personne n'a de courage et il n'y a personne pour défendre les vrais salariés et ceux qui bossent.
Jean-Philippe Tanguy, le carburant s'abaisse mais franchement très peu, c'est quasiment dans l'épaisseur du trait, entre 1 et 5 centimes, oui. Entre 1 et 8 centimes pour le gasoil.
Vous êtes sympa, hein, c'est plutôt 1.
C'est-à-dire que c'est plutôt 1, c'est ce que dit le gouvernement. Selon d'autres calculs, si on essaye de corriger aussi la hausse mécanique du prix dans les stations totales, bref, entre 1 et 8 centimes. Le compte n'y est pas ?
Non, mais malheureusement, ça va s'aggraver vu les décisions qui ont été prises et les annonces qui ont été prises. La conférence de presse improvisée à la Maison Blanche par Donald Trump alors qu'il recevait une livraison de McDonald's. Enfin, c'est des scènes complètement surréalistes. Moi, hier, je me suis demandé si c'était pas l'intelligence artificielle au début.
Alors effectivement, vous évoquez cette scène de Donald Trump qui reçoit effectivement la livraison du McDo directement à la porte de son bureau.
Oui, qui donne un billet de 100 et puis après il improvise une conférence de presse où il prend d'ailleurs en part.
Mais c'était pas votre copain Donald Trump, vous n'étiez pas réjoui?
Non, justement, c'était tout de suite inquiété du fait qu'il défendrait les intérêts des États-Unis. Or, pour reprendre votre question, quand vous êtes producteur indépendant de produits pétroliers et de gaz comme les États-Unis, même devenu une puissance exportatrice de gaz et de pétrole, vous n'avez pas les mêmes intérêts évidemment qu'une puissance complètement dépendante comme la France et l'Europe qui subissent de plein fouet, sans aucun bénéfice évidemment, et en particulier pour les consommateurs et les entreprises, ces hausses.
Est-ce que vous laissez entendre qu'il ne fait cette guerre en réalité que pour des raisons économiques?
En partie, non pas que pour, mais il a des raisons économiques évidentes. On voit bien qu'il y a un rééquilibrage des flux de commerce du pétrole et du gaz vers les États-Unis. Souvenez-vous, les accords commerciaux faits par Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, avec les États-Unis, avaient un pan énergétique très clair. À l'époque, le Rassemblement national l'avait dénoncé un peu seul. On nous disait qu'on était encore dans le complotisme, mais or, c'était déjà un enjeu très important pour les États-Unis, le gaz liquéfié, le pétrole, les produits raffinés, parce que vous voyez, on en avait déjà parlé lors d'une précédente interview, que la dépendance au gazole joue un rôle important parce qu'on n'a pas les raffineries pour être autonome sur la production de gazole.
Deux points là-dessus. L'un sur l'immédiateté. Aujourd'hui, effectivement, on le voit, et d'ailleurs Sébastien Lecornu hier s'est dit officiellement pas satisfait des faibles baisses constatées pour l'instant sur les prix à la pompe, et il a demandé au ministre une analyse approfondie. Il espère donc que ça va baisser. Qu'est-ce qui nous reste comme levier ? Est-ce que vous demandez toujours la baisse des taxes ?
Bien sûr, baisse de la TVA, ce qui représente entre 25 et 27 centimes, baisse de la TICPE en urgence de 16 centimes, donc ça fait entre 40 et 45 centimes de baisse. C'est considérable la baisse que l'on propose pour refaire un choc de confiance, pour libérer l'économie.
Enfin, le choc de confiance, c'est une fois, mais après, on s'habitue et puis finalement, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses. Hein.
Justement, le but
donc
de
ça marche qu'une fois, c'est un fusil à un coup.
Et bien sûr, sauf que c'est un fusil à un coup
et
qui
derrière,
dure.
Et derrière, c'est beaucoup moins d'argent à long terme qui rentre dans les caisses de l'État.
Là, tout est bloqué. Vous verrez que le coût de la crise est supérieur aux mesures d'accompagnement.
Alors, est-ce que l'idée de baisser les taxes pour une petite période, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, vous voudriez baisser les taxes point barre, c'est-à-dire passer de 20 à 5% la TVA en gros sur les carburants. Quand vous voyez que l'Allemagne, par exemple, va baisser les taxes, mais pour une durée de 3 mois, c'est-à-dire une baisse ponctuelle. Là, pour le coup, ça fait un vrai choc. Oui. Est-ce que vous y seriez favorable ?
Oui, mais nous, on a deux mesures depuis 2022. Il y a une mesure durable, vous avez raison, la baisse de la TVA est une mesure durable sur toutes les énergies. Et on a une mesure d'urgence que Marine Le Pen avait présentée en 2022, qu'on a rappelée au début de la guerre, qui est une baisse temporaire, effectivement, de
Que fait l'Allemagne ?
Exactement, l'Irlande, de la TICPE, donc c'est l'assise sur le carburant, qui est c'est une taxe fixe. Et donc on la baisse de 16 centimes et donc c'est complémentaire à la baisse des taxes.
Ne baisse pas les taxes en France, mais
il gagne du temps. Vous voyez bien son truc là de faire une analyse de c'est comme quand il a lancé
la phrase de Sébastien Lecornu hier qui officiellement demande au ministre de faire une analyse approfondie.
Oui, mais c'est le bingo. Donc il y avait les contrôles bidons. Pour gagner 2 semaines, on envoie des contrôles bidons. Ils savent que c'est bidon. Ils savent que la direction de la concurrence n'a pas de moyens de baisser ou de faire baisser les prix des carburants, mais ça occupe un peu.
Ça a été le début de cette crise, politique. Effectivement, avec des contrôles au totem des stations-service.
C'était bidon. Quand on a dit que quand le Rassemblement national a dit ce sont des contrôles bidons, c'était vrai. Il n'y avait pas de moyens. Il y avait pas
de. Il faut être tout à fait précis là-dessus. C'était bidon au sens où il y a bien eu des contrôles. Ça, c'est pas bidon. Il y a eu des personnes de la DGCCRF qui se sont rendues dans les différentes stations pour vérifier. Sauf que ce qu'elles vérifiaient, c'était pas si la baisse des prix était justifiée ou non. Ce qu'elles vérifiaient, c'était de savoir si le prix affiché sur le totem à l'entrée d'une station était le même que celui à la caisse et ensuite le même que celui qui était effectivement payé par les consommateurs. Donc il y avait un contrôle, mais qu'il n'avait aucun impact sur le prix.
Madame de Malherbe, vous savez très bien que c'était pas le sens du contrôle
annoncé.
Tout à
fait. C'est-à-dire que l'annonce donnait le sentiment qu'ils allaient permettre de faire baisser les prix. C'était
quand ils réunissent toutes les semaines les pétroliers, je vous ai dit ici aussi que en fait ça n'avait pas d'incidence ensuite sur la politique des pétroliers. Ils ont dit qu'ils allaient augmenter la production des raffineries. On sait très bien que les raffineurs avaient très peu de marge de manœuvre. Ce sont une succession, si vous voulez, d'annonces qui permettent de faire des dépêches AFP, qui permettent un peu d'occuper le terrain, mais qui cherchent juste à gagner du temps. Et d'ailleurs, maintenant, on commence à savoir la vérité. Il y a des gens qui parlent au gouvernement en disant on pensait que la guerre serait courte, on pensait qu'on passerait sous la vague. Et puis, en fait, le gouvernement n'avait rien prévu.
Comme les stocks pétroliers. Deux points ils sont, encore là-dessus. Patrick Pouyanné dit ce matin, donc le patron de Total, qu'il espère, évidemment, et qu'il dit l'importance pour le marché pétrolier d'une réouverture rapide du détroit d'Hormuz, même si cela implique de verser une compensation. Il est clair que la réouverture et la libre circulation dans le détroit d'Hormuz, même si cela implique donc de verser cette compensation, est crucial pour la liberté du marché. Et il évoque la possibilité de problèmes d'approvisionnement si la guerre dure plus de 3 mois.
Mais il a raison sur les problèmes d'approvisionnement. C'est un problème très sérieux et je pense que beaucoup de gens, de bonne foi, sous-estiment la dépendance de nos économies au pétrole, aux produits pétroliers, au gaz.
Bon, alors nous, c'est le pilier d'économie. On met en place des prêts. Un prêt flash carburant de la BPI qui sera ouvert dès aujourd'hui.
Mais non, mais c'est une mauvaise plaisanterie. C'est-à-dire que les entreprises vont devoir emprunter pour payer des taxes. Et donc le gouvernement va donc possiblement gagner de l'argent sur ces prêts.
Un intérêt de 3,3%.
C'est n'importe quoi. On est dans le record, même avant la crise pétrolière, on était déjà dans le record historique de défaillance d'entreprise. De toute façon, ça se voit à l'œil nu. Hein, vous vous baladez dans les centres-villes, même à Paris.
C'est la une du journal Les Échos ce matin, les défaillances.
Vous le voyez à l'œil nu qu'il y a des défaillances, qu'il y a des locaux, de plus en plus de locaux vides. Il y a toujours
concrètement, ça veut dire des entreprises qui font faillite. Hein.
Exactement, pardon, oui, c'est des entreprises qui font faillite. Donc vous rajoutez à cela effectivement le prix du carburant, vous rajoutez à cela cette histoire de prêts qui n'avait pas fonctionné pendant le Covid.
C'est mieux rien, s'ils n'ont pas de trésor là pour pouvoir payer.
On peut baisser les taxes. Madame de Malherbe, il y a 53% de la richesse des Français qui va en dépenses publiques. Donc ça représente 1600 milliards. La baisse de la TVA et la baisse de la TCPE cumulées, c'est entre 15 et 16 milliards sur un an. Sur un an, si la crise devait durer. Donc c'est même pas 1% de dépenses publiques. Donc ce gouvernement nous explique, et c'est exactement comme le 1er mai, tellement il est faible, tellement il n'a pas de mesures à prendre, qu'il est incapable de faire 1% d'économie pour baisser les baisses de taxes sur les carburants. C'est grotesque.
Les ZFE, vous allez faire quoi? Le RN, on se souvient que le RN était favorable à la suspension de ces ZFE, les zones à faible émission. Et finalement, le gouvernement va laisser la possibilité aux municipalités de décider. Donc ce sera pas une interdiction des ZFE, ce sera pas non plus le laisser totalement comme c'était, ce sera la possibilité pour chaque municipalité de décider. Est-ce que vous allez accepter cet assouplissement ?
Absolument pas, c'est inacceptable pour deux raisons. Déjà sur le fond, on ne veut pas des ZFE, les Français ne veulent pas des ZFE, c'est encore un machin technocratique qui est là pour brutaliser les travailleurs, pour brutaliser les artisans.
Oui, mais dans les faits, si vous ne votez pas cela, ça veut dire qu'on reste à la situation actuelle qui est celle que vous dénoncez.
Mais tant pis. Pourquoi ?
Vous allez donc voter avec les écolos.
Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que
pour des raisons diamétralement opposées.
On a gagné ce vote. Ce qui est quand même grave, c'est qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
On l'a gagné plusieurs fois. Et en fait, on est dans un gouvernement qui est minoritaire, mais qui refuse de perdre. Pourquoi ? Parce que c'est pas Monsieur Le Cornu qui est pour les ZFE. Je pense qu'il a pas d'opinion là-dessus. S'il en a une, à mon avis, il est plutôt opposé vu son parcours politique. C'est que c'est l'administration une fois de plus qui dirige. Voilà, l'administration et la Commission européenne ont décidé de mettre ces zones à faible émission. Ça faisait même partie, vous savez, de ce qu'on appelle les jalons, les critères du plan d'aide européen, du prêt européen, pour avoir droit à notre propre argent, ce qui est quand même assez ironique, via l'Europe, il fallait qu'on mette en place ces ZFE. C'est cette administration et cette autorité européenne qui nous impose cela. Et même quand l'Assemblée nationale n'en veut pas, même quand il y a une très large majorité des Françaises et des Français qui n'en veulent pas, eh ben ils l'appliquent quand même. Donc c'est aussi un vote de principe de dire on ne veut pas, on veut pouvoir gouverner et on veut quand même pouvoir prendre nos décisions et de défendre les habitants quand même.
Jean-Philippe Tanguy, il y a 3 semaines, Marine Le Pen allait à Budapest pour apporter son soutien à son ami, je cite Viktor Orban. Il a été battu dimanche. C'est encore votre ami ?
Oui, mais nous, on ne change pas d'amitié selon les urnes. Mais il y a eu l'alternance. Et vous voyez bien toutes ces légendes urbaines propagées par les macronistes disant que la Hongrie était une dictature, qu'il était impossible de gagner les élections pour les opposants de M. Orban. Bah, non seulement ils ont gagné, mais en plus ils ont gagné aux 2/3. Donc vous voyez bien que tout ça était encore des mensonges.
Il y a une enquête qui a été ouverte au niveau européen sur des soupçons qui reposent sur le ministre des Affaires étrangères de Viktor Orban, qui divulguait, semble-t-il, en temps réel des informations confidentielles au ministre des Affaires étrangères de Vladimir Poutine. C'est ça, vos amis ?
Mais il faut établir la vérité. Mais il faut établir la vérité. Il faut savoir ce qui s'est passé. Moi, j'ai aucune difficulté.
Mais
madame de Malherbe.
C'est quoi ? C'est de la trahison ?
Mais on verra. Et puis après, il faut voir si ce comportement était lié aussi au gouvernement ou si c'était une trahison, le cas échéant, individuelle. Mais il faut surtout que la Hongrie fasse la vérité sur sa propre.
Enfin, pardon, mais ça veut dire quand même que leurs amis, c'est plus Poutine que l'Union européenne. Entre l'Union européenne et Poutine, vous choisissez qui, vous ?
Moi, on choisit évidemment l'Union européenne. Enfin, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens de ne pas choisir l'Alliance
européenne. Mes amis sont mes amis.
Oui, mais
leurs amis à eux, c'est Poutine.
Oui, non, mais ça, c'est une formule qui est un peu facile, excusez-moi. Et la Hongrie défend aussi un certain nombre de contraintes. Il se trouve que c'est un pays enclavé et dont l'approvisionnement en pétrole dépend exclusivement de la Russie. Et il faut aussi se mettre parfois à la place de, c'est facile, vous savez, quand vous dépendez pas de la Russie, de dire on est qu'être indépendant d'un pays dont on n'est pas dépendant. Quand vous êtes entièrement dépendant d'un pays comme la Russie, je vous rappelle que l'Ukraine elle-même, et j'en ai fini là, qui est en guerre, enfin, qui est victime d'une guerre.
Encore une fois, vous répétez cet argument économique. Ça veut dire qu'en fait, c'est le courage et la décision morale ne dépend que des intérêts économiques.
Mais parce que la
décision. Ça veut dire que le jour où vous devrez prendre des décisions importantes face à de potentiels ennemis, mais qu'en même temps ils vous continueront à vous vendre, je sais pas, du blé ou du pétrole, vous direz bah non, je vais pas m'opposer.
Enfin, vous plaisantez, madame de Malherbe, c'est une question importante. Oui, mais d'accord, mais vous savez très bien que c'est ce qui se passe depuis la guerre en Ukraine. Le gaz russe, on a continué à en acheter. Hein.
Tout à fait.
Il y a même eu des records d'achat de gaz russe. On a continué à acheter beaucoup de produits russes, des produits de fission nucléaire, par exemple.
Mais c'est normal.
Parce que vous dites le courage.
C'est acceptable.
Mais c'est pas acceptable, c'est la réalité, il ne faut rien contre. Je vais vous donner un exemple très concret. La médecine nucléaire, pour soigner les gens du cancer en France, vous savez de qui on dépend ? de la Russie. Pourquoi ? Parce que le réacteur qui est sur le plateau de Saclay, qui servait à l'indépendance médicale pour soigner les cancers, une fois plus, pour faire la médecine radiologique, eh ben on est dépendant de la Russie. J'avais coincé Madame Pannier-Runacher quand elle était ministre en lui disant aujourd'hui nous sommes dépendants pour soigner nos malades du cancer de la Russie. Elle avait dit ah bah oui c'est vrai je peux rien faire. Ils pouvaient rien faire. Ils avaient fermé le réacteur.
Qui c'est une question effectivement de souveraineté.
Mais oui, mais voyez donc accuser. Moi j'ai pas d'action dans la Hongrie. Je dis accuser un pays alors que nous-mêmes. Nous le faisons depuis la guerre en Ukraine. Faut arrêter de se donner des gages de vertu qu'ils n'ont pas, mais c'est caché.
Dernière question, Jean-Philippe Tanguy. On sait que Marine Le Pen a donc déjeuné avec des grands patrons le 7 avril dernier. Déjeuner certes, mais est-ce que vous en savez plus un peu sur le contenu ? Parce que semble-t-il, ils n'ont pas été tout à fait amicaux avec Marine Le Pen.
Mais c'est-à-dire que Marine Le Pen a défendu notre programme, d'après les informations que j'ai, et que Marine Le Pen, elle explique, elle dialogue, mais elle s'adapte pas à son public. C'est-à-dire, elle dit pas aux syndicats de salariés, on va vous faire plein de cadeaux, elle dit pas aux patrons, on va vous faire plein de cadeaux, on défend une ligne politique. Marine Le Pen, c'est une femme intègre, c'est une femme entière, et elle a défendu son programme. Donc eux, peut-être qu'ils espéraient que parce qu'ils sont puissants, qu'ils sont importants, on allait changer notre programme pour leur faire plaisir. Bah non, vous voyez. Et c'est un beau pied de nez d'ailleurs à ceux qui nous avaient accusés de changer notre programme justement pour faire plaisir aux quatre carottes. Nous, on est dans l'échange. On peut faire des erreurs, donc on peut corriger des erreurs de bonne foi. Mais on a un programme qu'on défend.
Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme et membre de la commission des finances. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h47.
Jean-Philippe Tanguy.
Ne bougez pas sur RMC. Dans un instant, on va rire avec Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, mon invité, c'était Jean-Philippe Tanguy. Il est resté avec nous. Rebonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour, avec plaisir.
Marine Le Pen est avec nous aussi, tiens.
Oui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à Jean-Philippe.
Vous vouliez réagir, je crois, à la défaite de votre allié et ami Viktor Orban en Hongrie.
Non, pas du tout. Non, Par contre, nous pouvons parler avec plaisir de Jordan et de sa princesse. Vous avez vu qu'elle est magnifique. Oh. Ah, si, une belle héritière blonde, brillante et gracieuse. C'est pas compliqué, on dirait moi. Mais oui, mais on le sait, les hommes cherchent toujours à retrouver un peu leur maman au travers de leur femme, quelque part.
Bon, enfin, sur Viktor Orban, quand même, moi, j'aimerais vous interroger. Il a perdu les élections, la population hongroise lui a reproché sa proximité avec Vladimir Poutine et Donald Trump.
Je ne connais pas ces gens. Je ne sais pas qui sont ces monsieur Robin, monsieur Pouchkine, monsieur Crumb. Écoutez, intéressons-nous à la France. J'ai suffisamment à faire et à son avenir. Elle ferait une super première dame, non, la princesse.
Oh, mais arrêtez avec cette histoire de princesse. Enfin, ça n'a aucune importance.
Mais pardon, mais si.
Ah.
Vous savez, si j'avais épousé un riche héritier au lieu de m'être mis en couple avec un roturier comme Louis Alliot, aujourd'hui, aujourd'hui je ne serais pas inéligible. Hein. J'aurais largement les moyens. Grâce à mon mari, voilà. Ah. Et j'aurais pas eu à gratter 3 francs 6 sous au Parlement européen. Voilà.
Oui. Bon, enfin, elle était quand même mise en scène, cette paparazzade.
Mais c'est faux. Oh. Jordan est descendu avec elle, de voiture, voilà. Parce que quand il a vu les routes sinueuses, dangereuses de la Corse, il s'est dit, voilà, il vaut mieux descendre. Parce qu'une princesse dans une Mercedes, excusez-moi, mais on sait comment ça peut finir.
C'était pour ça, d'accord. Merci, Madame Le Pen. Sans plus attendre, on retrouve Marc-Olivier Fogiel pour les titres de l'actualité. Salut.
Oui, bonjour, Apolline. Mais dis donc, quel bazar. Ce détroit d'Ormuz, si j'ai bien compris. Donc Trump, pour débloquer le détroit, on va bloquer le détroit qui était déjà bloqué. Tout ça à cause d'un gars qui débloque. Allez, c'est parti pour les titres. Guerre en Iran après les vives critiques du président américain. Le pape Léon XIV a déclaré qu'il n'avait pas peur de l'administration Trump. Qu'il se méfie quand même, dans deux jours, Trump bombarde le Vatican et on aura de très belles photos du pape dans un hélicoptère, les yeux pendés, en caleçon, entre deux GI. Vive le prix de la paix. Et puis après, avec les attaques de Trump envers le pape, cas de conscience chez CNews. La rédaction est complètement déboussolée. À qui donner raison? À Trump, au pape, on ne sait pas. C'est comme demander. Ben oui, c'est comme demander à un enfant de choisir entre son papa et sa maman. Et puis audience radio, oui, c'est ce midi que Médiamétrie va révéler les audiences radio du premier trimestre. On félicite donc d'ores et déjà les 17 radios qui vont toutes se féliciter d'être premières du classement. Je suis sûr que même France Bleu Ardèche va se revendiquer première radio généraliste de France sur les seniors de 52 à 56 ans qui possèdent un troupeau de chèvres dont le nombre est impair et unijambiste.
Merci Marc-Olivier Fogiel. Emmanuel Macron a annoncé que la France organisera une conférence sur le détroit d'Ormuz dans les prochains jours. Bonjour Monsieur le Président.
Oui,
Bonjour à toutes et à tous. À celles et ceux, ceux et celles et ceux. Écoutez, en effet, la situation n'a que trop duré, nous le savons tous. Du coup, je reprends les choses en main. Si je ne gère pas cette histoire moi-même, nous n'en sortirons jamais, nous le savons. Donc, j'annonce officiellement, et je le dis devant M. Tanguy, que je vais faire comme Notre-Dame, je vais rouvrir le détroit d'Ormuz en 5 ans.
5 ans, c'est long en vrai. Hein.
Je vous l'accorde. C'est long. Mais écoutez, ça demande un peu de temps de réunir tous les partenaires qui participeront à cette grande conférence que la France va organiser, la conférence mondiale sur le détroit d'Ormuz. Mais je préviens, si ça ne suffit pas, nous n'hésiterons pas à dégainer l'arme absolue de la France.
Le porte-avions, le Charles de Gaulle ?
Non. L'organisation d'un Grenelle de la navigation dans le golfe Persique.
Évidemment.
Et s'il le faut, Madame de Malherbe, je vous le dis droit dans les yeux.
Oui, vous osez.
Et je le dis à nos compatriotes, à ceux et celles qui nous écoutent. Nous pourrons aller même sur un Ségur du golfe d'Oman. Wow. Mais de grâce, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Il faut absolument éviter d'arriver à ce point de non-retour que serait d'organiser un conclave du Beauvau, du Ségur, du Grenelle, des flux pétroliers internationaux.
Merci, Monsieur le Président. Le pape Léon a donc entamé un voyage de 10 jours en Afrique, le souverain pontife, que l'on retrouve en pleine réunion, tiens, avec les cardinaux.
Amash, test micro. Mesdames, messieurs les cardinaux. Pardon, messieurs, j'oublie toujours. Mais oui, mais c'est Christian, Robert et Bernard avec leur robe aussi, ça.
C'est les robes, évidemment.
Bon, messieurs, ces dernières années, on va pas se mentir, on a perdu de grosses parts de marché face à notre concurrent principal, l'islam. Il nous faut d'urgence reconquérir la clientèle. Aujourd'hui, promettre la vie éternelle ne suffit plus. J'ai étudié la concurrence. En face, ils ont une offre en béton. Ils récompensent la fidélité de leurs clients. Ils promettent carrément 72 vierges. 72. Nous, on propose quoi? Une seule vierge et en plus, elle est plus sous garantie. Elle a déjà eu un fils. On peut pas lutter. Donc je pense qu'il faut, d'urgence un nouveau visage pour incarner la marque. Jésus, c'est très bien, on est d'accord. Mais il a fait le boulot, d'accord. Mais c'était il y a 2000 ans, là ça commence à être un peu répétitif.
Oui.
C'est has-been. Et puis pardon, mais il vient jamais aux réunions.
C'est vrai, c'est
vrai. Il nous faut quelqu'un qui soit sur le coup, tout terrain, un bosseur capable de parler de tous les sujets de société. Donc j'ai proposé le poste à Alain Marchand. Il était plutôt partant, mais quand je lui ai parlé des conditions de travail, pauvreté, chasteté, il a hésité. Mais c'est surtout quand je lui ai parlé de la crucifixion et des clous, et là, il m'a dit non, ça c'est plutôt un poste pour Truchot. On sent qu'ils sont bons copains. La camaraderie, mais oui, c'est ça. Bon, bref, finalement, j'ai pris contact avec quelqu'un qui a fait ses preuves. Franck Leboeuf. Vous savez, le gars de vendezvotrevoiture.fr. Ne vendez pas votre voiture à n'importe qui. Mais oui, mais il est parfait, c'est lui qu'il nous faut. Un vendeur de bagnole, ça peut tout vendre. J'imagine déjà notre nouveau slogan. Vous voulez changer de religion? Ne vendrez pas votre âme à n'importe qui. Hein? On fait comme ça? Allez, qui va me suivre?
C'est bon, merci Nicolas, c'était magnifique. Merci Nicolas, merci tiens, à Jean-Philippe Tanguy d'être resté avec nous. Passe à quand nous retrouve dès demain à 8h50 et le Messie est arrivé.
La grand-messe des GG, ça démarre à 9h en direct jusqu'à midi. Le gouvernement qui renonce au 1er mai, est-ce que c'est un gouvernement de dégonflé? Est-ce qu'il faut mettre des caméras de vidéosurveillance dans tous les établissements scolaires parisiens? Et puis on s'interrogera sur les carburants, ça va repartir à la hausse. Jusqu'à quand va-t-on garder un carburant supérieur à 2 euros? Venez en discuter avec les grandes gueules au 32-16.